voulez, c'est déjà avancé. La nuit, la parole est libre. Un secret partagé est toujours plus facile à porter. 21h, 23h, Confidence. L'émission Sans Tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Bonsoir chers amis et bienvenue sur Beurre FM, il est 21h et quelques petites minutes. J'espère que vous allez bien. Nous ici, ben écoutez, avec Yanis, on va bien. Enfin, je parle en son nom, mais il a l'air d'aller bien. Ça va Yanis?
Jusqu'à ce que je te vois, ça allait bien.
Ça allait bien jusque là. Hein.
C'était une bonne journée jusqu'ici.
Ah ouais, puis là, hein, c'est plus pareil. Punaise,
t'as vu? Ah bah je vois.
Ouais, elle est dure la vie. Hein. Ah ouais, c'est pas facile. Hein. Bah écoute, que tu veux, tu vas devoir me supporter encore quelques temps.
Une dernière semaine, après je suis libre.
Après t'es libre, c'est quoi, les vacances?
Les vacances.
Tu pars où?
Je sais pas encore, mais loin de toi.
Il dit ça, mais on va partir ensemble, je vais pas le lâcher.
Ah,
voilà, avec sa maman et moi, et lui, et mes petits toutous, et ma petite famille.
Oh, le cauchemar.
Tu ne savais pas, mais on a prévu ça.
Ah, bon, j'ai un arrêt maladie de un mois, moi, d'autant.
Ma boule. Ben voilà, c'est comme ça que ça se passe ici chez nous. Ah non, mais c'est comme ça, hein. C'est communautaire, ça, et c'est culturel. Voilà, c'est comme ça qu'on s'aime, hein, en se disant des gentillesses. Mais écoutez, j'espère que vous allez bien. Par contre, le standard, ben écoutez, je sais pas ce qui se passe, mais je peux vous assurer que c'est tableau noir. Wellou, pas d'appel, mais à la baliche, ce qui se passe. Je veux bien que nous soyons le lundi 25 juillet de l'année 2022. 25 juillet, c'est beaucoup sont partis en vacances. D'autres, bah écoutez, sont en train de se balader, ou je sais pas où ils sont. Mais nous, on est là pour vous. Alors avant de commencer, je vais faire une petite dédicace à Rose. Rose qui est une fidèle auditrice, voilà, qui m'a parlé aujourd'hui. Mais vraiment, qui m'a parlé d'une certaine Vanessa. On s'est rencontrés, comme ça. Vraiment, le pur hasard, hein, vraiment. Ah, le hasard de la vie. Donc, elle s'appelle Rose, elle écoute. Et puis, on parle de Beurre FM. Elle me dit, ah, mais moi, j'écoute Vanessa, j'aime bien et tout. Plein de compliments sur Vanessa, qu'elle écoute tous les soirs. Ah, je dis, c'est bien. Bah, écoutez, oui, c'est bien. Et alors? Voilà. Donc, quand les compliments, bah, je voyais que c'était plutôt gentillet. Bah, je lui dis, ok, bah, je transmettrai, mais c'est du direct, là, ça y est, c'est fait, hein. Je suis là. Elle était toute étonnée, hein, Rose, n'est-ce pas? Voilà. Donc, très sympathique auditrice. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, voilà, on se rend compte peut-être qu'on se croise et on sait pas toujours qui écoute. Voilà, voilà. Bon, ben, appelez. Allez, 01 53 48 3000, sujet libre. C'est vous qui faites l'émission, c'est vous qui choisissez, comme dirait Coluche, paix à son âme. Donc c'est vous qui choisissez vos sujets, vos thèmes, de quoi on va parler ce soir. Les premiers arrivés, ben, c'est eux qui ouvrent la discussion, hein, voilà. Et puis on s'est dit beaucoup de choses la semaine dernière, n'est-ce pas? Donc on peut, à la limite, on peut repartir sur ce qu'on s'est dit, voilà, sur un thème de la semaine dernière. Il y a eu des thèmes assez chauds quand même, hein. Quand je dis chaud, sérieux quoi, hein, voilà. Hein. Moi, je vais dans votre sens, d'accord? Sinon, venez vider votre cœur, un cœur trop plein. Parfois, on est blindé au niveau du cœur. C'est chargé. Et ici, il y a de bonnes oreilles pour vous écouter et puis beaucoup de conseils pourront vous être donnés à travers les expériences des uns, des unes, des autres. Voilà, voilà. Tout d'abord, une pensée pour nos amis qui sont souffrants. Je vous souhaite un prompt rétablissement, l'aïd du bikoum, inchallah. Ainsi qu'à vous qui êtes hospitalisés ou seuls chez vous. Une pensée également aux personnes incarcérées. Ainsi qu'à vos familles. On n'oublie pas les courageuses et les courageux du soir. Vous qui travaillez de nuit. Une pensée également aux personnes qui n'ont pas de domicile fixe, aux sans-papiers, aux réfugiés, aux animaux. Une pensée à tous les terriens sans distinction aucune. Alors, ma petite Safia de la Courneuve, je commence bien ce soir, la soirée. Bonsoir ma Safia. Hop. Ah ben.
Allô?
Oui, bonsoir Safia.
J'ai trouvé ça trop beau, Rose.
Rose, oui.
Ah, c'était par rencontre du hasard.
Le pur hasard, mais incroyable. Elle me parle de Beurre FM et d'une Vanessa qu'elle écoute tous les soirs, qu'elle aime beaucoup et tout. Alors vraiment, ah, t'imagines, elle l'avait en face d'elle. Ah, t'imagines l'étonnement après, la stupeur. Elle était... Oh. Et puis, alors, après, elle a dû reconnaître la voix. Pardon ?
Dis que c'est un miracle de la vie, ça.
Ah, c'est incroyable. Hein, ah, ouais. Et l'autre fois, alors l'autre jour...
Attends, j'ai fait des gros bisous, moi, Rose. Parce qu'elle est de notre communauté et puis elle est...
Non, elle n'est pas de ta communauté. Mais bon, elle est de la communauté terrienne.
Mais non, la communauté des auditeurs.
Ah oui, des terriens. Je pensais communauté maghrébine. Non, elle n'est pas maghrébine, hein, Rose.
Non, moi, je suis complètement dans l'ouverture totale absolue. Moi, je suis,
je t'adore, je t'adore.
Mais ah, vraiment. Non, je suis à l'aise dans toutes les structures, dans toutes les CSP, dans tout ce que tu veux.
Ah, mais ça, je l'avais remarqué, hein. Ah, si tout, le monde est, si tout le monde était comme toi, il n'y aurait pas de guerre sur Terre. Hein. C'est pour ça qu'il y a des guerres. Les gens, ils ne savent pas, en vérité. Parce que les gens, ils se plaignent tout le temps. Disant, ah, il y a les guerres et tout. Mais la guerre, elle est chez vous, elle est en vous. Elle est en nous, à l'intérieur, la guerre. Mais oui. Alors, on ne peut pas s'étonner qu'il y ait des guerres, là, avec des armes, à l'extérieur. Puisque nous-mêmes, eh bien, nous sommes... voilà. Et les gens se plaignent toujours en disant, c'est toujours la faute de l'autre. L'autre, il est intolérant. L'autre, il est raciste. L'autre, il est méchant. Alors qu'eux-mêmes le sont. Je t'assure que j'ai déjà entendu des personnes mais tenir des propos racistes inouïs, vraiment, et un jour, comme ça, parler des... parce que si ça leur arrive, hein, bon, ça peut arriver, hein, eh bien, ces personnes viennent se plaindre en te disant, mais tu te rends compte, on m'a dit ça, c'est du racisme, elle est raciste, machin, etc. Alors qu'elle, elle est raciste, elle ne se rend pas compte. Et qu'en permanence, elle tient des propos à l'égard d'autres personnes, d'autres communautés, etc., déplacées, tu vois. Donc les gens se rendent même plus... C'est ce qui est grave, ce qui est dramatique, c'est que les gens ne se rendent pas compte. Ce qu'ils se permettent, eux, ils ne tolèrent pas chez les autres.
La première chose que tu es en train d'acter et de constater, avec lequel je suis parfaitement raccord et d'accord, c'est le fait que quand on se plaint de quelque chose qui est extérieur à nous, c'est que, normalement, si on est aligné et cohérent avec nous-mêmes, hein, on est en clarté avec nous-mêmes, et bien de l'autre côté, quand il y a une approche telle qu'elle soit, hein, professionnelle, des collègues, ou la famille, ou je ne sais que trop, que tu crois, et bien, qui que ce soit vient, il est désaligné, il te provoque, il t'impacte, etc., que dans les effets miroirs, si ça a marché, c'est qu'il y a quelque chose qui est dysfonctionnel, parce que ça part de toi, le conflit qui...
Ben oui.
La tension et parce que après on a nous-mêmes en nous-mêmes nos propres tensions, nos propres violences internes qu'on doit gérer et qu'on doit réguler pour être au mieux avec les autres.
Mais oui. Et quand on parle de tolérance, par exemple, souvent ce mot est devenu très à la mode. Hein. Eh bien, on parle beaucoup de tolérance, intolérance, etc. C'est... Alors vraiment, les gens ne se rendent pas compte à quel point, eh bien, ils le sont intolérants. Parce que ces mêmes personnes qui te disent oui, ils sont intolérants, l'autre est raciste, l'autre machin chouette, etc. Ils n'ont aucune philosophie de la vie, c'est-à-dire ils n'ont aucune notion donc philosophique, j'ai envie de dire, parce que la philosophie, eh bien, on peut vraiment, si on puise dans la philosophie, on a tout gagné. On peut résoudre tous les problèmes à travers la philosophie, parce que la philosophie n'impose rien. C'est l'ouverture. C'est, on te pousse à te poser des questions et à prendre de la distance. Et c'est juste formidable. Et d'ailleurs, en ce moment, je suis en plein Spinoza et je trouve que c'est vraiment, c'est une lumière. Et bien, oui, et j'aime bien quand il est expliqué par Frédéric Lenoir. Ça, j'adore.
Personnellement, je te rejoins parfaitement parce que je suis assez calée en philosophie. J'aime beaucoup ça. Et après, de l'autre côté, moi, mon auteur, j'aime beaucoup. C'est un Allemand, c'est Fried. Il m'échappe. Même qui a été alpagué.
Nietzsche. Nietzsche. Ben oui. Ah oui, t'as dit alpagué, j'ai tout compris. Ben oui, Nietzsche. Oui, c'est ça, t'as raison, c'est vrai, Nietzsche.
Pas le fait qu'il était job, t'as même Céline, etc., même si sur le plan...
C'est encore autre chose, oui, c'est ça, t'as raison.
Moi, je regarde la qualité artistique.
Ah oui, Céline, l'auteur, hein, je parle bien pas l'homme, mais l'auteur, c'est un génie. Le Voyage au bout de la nuit, j'ai dû le lire, je sais pas, peut-être 10 fois.
Ouais. Comment il rentre dans le cœur de la sordidité.
Ah, mais complètement. Mais oui.
C'est remarquable.
Ah oui, et le style en même temps.
La philosophie, effectivement, tu as raison. C'est une grande humanité quand on est calé, qu'on est bien installé philosophiquement parlant. Mm-hmm. Parce que bon, c'est quand même toute la lignée de l'Antiquité. Bon,
mais
il y a la philosophie helléniste, hein, Socrate, Platon,
Aristote, tout ça.
C'est toute la pensée à travers l'histoire de l'humanité.
Ah oui, c'est pas les philosophes de notre époque hein, qui. Alors, ça, là, c'est même pas la peine. Hein. Je vais dire, j'aurais honte d'avoir un bouquin. Non, je veux pas citer de nom, mais laisse tomber, hein, franchement.
On va se taire. Ouais,
autoproclamé.
La bassesse. Ouais. Effectivement, mais bon, il y en a un qui est quand même rigolé, c'est lui à qui on fout des tartes
col blanc, tout ça. Enfin, c'est
là. Mais total, absolu,
philosophe. Va-t'en guerre.
Mais c'est même plus. Mais c'est la catastrophe sur deux pattes, quoi. Le pire, c'est que son égo.
T'imagines Socrate. Il rencontrerait ce personnage. Mais Socrate, tu sais quoi? Socrate, il se tue 2 fois, quoi. Il demande plus une double ration d'acidu, de cigu. Tu vois, parce qu'il est mort avec ça, la cigu. Eh bien, il demanderait, je pense, une double ration. Non, c'est juste pas possible. Quand tu vois Socrate, qui était en guenille, il aurait pu ne pas, au contraire, il avait la possibilité, mais non, c'était voulu. Il était en guenille, il marchait pieds nus, parce que c'était un vrai philosophe, et il a rien laissé d'écrit d'ailleurs, puisque lui-même, il voulait transmettre par voie orale, et d'ailleurs, sa pensée, elle est moderne. Voilà.
Le pauvre garçon, mais tu vois, les cyniques, Diogène, etc., tu sais, les philosophes.
Diogène.
Qui mettaient de la lumière, une bougie comme ça, en plein milieu du zénith et de la lumière, qui voyaient un mec comme ça passer, mais c'est de la noirceur. C'est vraiment. Le pire, c'est qu'il se rend même plus compte de sa bêtise et de son.
Ah ben non, l'ego, ma chérie, l'ego. Hein? L'ego.
Tu sais, on est toujours dans cette fameuse dualité intérieure où est-ce qu'on nourrit notre dragon blanc. Donc, il n'a pas atteint son humanité, son cœur d'humain.
Ouais.
Et par contre, il y a sa sœur qui est super, Véronique, reconvertie au catholicisme.
Mmh. Ah oui, effectivement.
Ouais, ça a l'air vraiment d'être une belle figure humaine, mais enfin, j'ai pas creusé le truc. Mais bon, pour en revenir, la philosophie, on est toujours ignorant. Malheureusement, même si on veut avancer, la philosophie arabe, aristotélicienne, etc., grecque, bref, il faut toujours vivre sa vie terrestre et toujours aller vers les choses qui sont qui te mettent en bien-être avec toi-même et qui après bon, plus on avance, ce qu'il y a de bien en vieillissant, c'est que plus on avance dans la vie, plus on peut éviter les choses qui ne nous conviennent plus. Quoi.
Mais oui, mais c'est ça. Et puis. Justement, c'est pour ça que l'éducation est très importante, parce que c'est le départ de la vie, la construction d'un être humain, d'un individu, il commence très tôt, et commence dans la plus petite enfance. Et c'est pour ça que donner la possibilité à l'enfant de la libre pensée, déjà, de penser par lui-même, d'apprendre par lui-même, l'accompagner dans son apprentissage de la vie sans lui imposer nos croyances, peu importe lesquelles, qu'elles soient religieuses ou qu'elles soient philosophiques ou qu'elles soient tout ce que tu veux, eh bien, ou politique, tout ça, moi je mets tout ça dans le même sac, on n'a pas imposé. C'est pour ça que si tu veux, la société va mal, parce que l'enfant, eh bien, on si tu veux, les parents, pour la plupart, éduquent leurs enfants à partir de leur pensée à eux, à partir de leur personnalité. Donc l'enfant est forcément dépersonnalisé parce qu'on ne laisse pas sa personnalité se construire et se mettre en place, parce que chaque individu est différent. Nous sommes tous différents les uns des autres, et c'est ce qui fait la beauté, le charme de ce monde. T'imagines, c'est ça. Et les enfants, oui, les enfants, moi, si tu veux, ce qui me chagrine, et ouais, ça j'en suis persuadée, mais un point, et je creuse énormément et je cherche énormément, eh bien, si la société va mal, la société humaine, hein, je parle dans son ensemble, eh bien, elle va mal, c'est parce que, justement, on ne laisse pas la part de la liberté de choix à l'enfant. Parce que l'enfant, on peut l'accompagner dans les valeurs de la vie. Dans son éducation, on lui apprend, par exemple, je sais pas, comme on lui apprend à bien se tenir à table, à marcher, etc. Voilà, les bonnes manières, le respect de l'autre, de l'animal, de l'humain, etc. De vivre en société, on le prépare, c'est une préparation. Mais dans la préparation, eh bien, il faut aussi que l'enfant devienne un individu à part entière. Mais combien sont-ils comme ça? Il y en a pas beaucoup. Les gens savent pas, parce que t'as des gens qui te disent non, c'est mon... Par exemple, les religions, par exemple. Eh bien, bon nombre de personnes, et je peux t'assurer qu'ils sont, pour la grande majorité, pensent que c'est leur propre choix, leur conviction, et c'est leur croyance à eux. Mais t'es pas né comme ça, t'es né neutre, tu connaissais rien. On t'a jamais... quand t'es venu au monde, tu savais même pas que les religions existaient, ou tu connaissais rien. Tu savais même pas marcher, alors tu vois. Donc, ni parler. Tu serais né dans une famille inuite qui parle, ou japonaise qui parle japonais ou esquimau, ben tu serais comme eux et tu pratiquerais la religion inuite ou la religion esquimau, la religion des japonais ou je ne sais quoi. Ça, c'est le hasard de la naissance. Alors que les gens pensent, ils s'auto-persuadent que c'est leur choix. Non, c'est pas ton choix que tu sois musulman ou chrétien ou juif. C'est pas ton choix. T'es tombé dans une famille, t'es né dans cette famille, et bien, t'as été conditionné. Mais si t'étais, toi, tu étais né chez les Esquimaux, tu pratiquerais la religion des Esquimaux. Tu naîtrais au Mexique, voilà, c'est tout. C'est vraiment le hasard de la naissance. Et les gens, ils se rendent pas compte. Ils te disent, ah non, de lui-même. Moi, j'aime bien, parce que t'as des mères qui disent, ah, de lui-même, mon fils, là, il fait la prière, de lui-même, il est parti. Mais c'est pas de lui-même, il vous a vu, c'est dans la famille, vous lui parlez que de ça. Je veux dire, on parle de ça, il y a les livres, machin, etc. Dans une famille juive, eh bien, il y a la Torah, il y a le Shabbat toutes les semaines, tous les jeudis soirs, les vendredis soirs, etc. Donc, voilà, l'enfant, il va être forcément juif, il va pas être inuit. Eh bien, un musulman, c'est pareil. Le mois de Ramadan, l'Aïd, et Salat, et machin, il voit ses parents. Et l'effet de mimétisme. Alors donc, ça vient pas de lui. C'est cet enfant qui est né dans une famille musulmane, et qui, dont les parents sont fiers parce qu'il fait la prière, etc. Mais s'il était ce même enfant, il était né chez, je sais pas moi, dans un pays, je parlais du Mexique, ou j'ai même pas les idées, parce qu'il y a tellement de pays sur Terre, voilà, ou chez les Indiens d'Amérique, ou chez les Indiens, chez les Australiens là-bas, eh bien, il pratiquerait les religions de ses parents, indiens ou australiens ou autres, ce même enfant. Et ses parents diraient peut-être la même chose alors. Mais les gens ne se rendent pas compte que c'est du conditionnement. C'est tout. Quels sont les parents? Ça, ils en existent, hein. Mais quels sont? Ils sont pas très nombreux, ces parents qui, surtout chez nous, qui mettent au monde des enfants et qui disent, ben, je vais respecter mon enfant, comme dirait Khalil Gibran, vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les enfants de la vie, l'appel à elle-même, je sais plus comment il le dit. Donc, si pratiquer cette philosophie en disant à l'enfant, ben, écoute, voilà, nous, voilà, moi, je crois en ça, je pratique ça, mais toi, tu n'es pas obligé. Je veux que tu apprennes par toi-même. Faut que tu fasses ton cheminement, fais ton chemin. Lis tout, apprends. Si t'as envie de croire une religion, ou de pratiquer, ou pas. Si t'as pas envie, ben, écoute, c'est ton choix. Mais je veux que ça vienne de toi. Donc, surtout, ne copie pas sur moi. Moi, j'ai fait mon choix. Je lui explique à mon enfant que j'ai fait mon choix, mais que mon choix à moi me regarde. C'est comme, par exemple, les couleurs, le choix des couleurs, le choix pour manger un plat ou un légume que lui n'aimerait pas forcément. Donc non, tu n'es pas obligé de me suivre dans mon choix. dans mes choix. Donc voilà, tu as le temps de grandir, de te construire en âge de d'apprentissage, de comprendre. Eh bien, tu feras ton cheminement et ton apprentissage et tu choisiras ce que tu voudras. Une religion, peu importe ou pas. Voilà, c'est tu es mon enfant. Je t'aime, je t'apprends les choses, mais tu es libre. Oh, mon Dieu, comme ça fait du bien d'entendre ça. Un parent qui te dit ça, tu es libre et tout. Mais tu te rends compte, la construction, comment elle se fait? Elle se fait, tu es dans l'épanouissement total. Mais très peu sont comme ça. Très, très peu. Et la plupart, ils te disent, ah, mon fils, ah, ça là, tous les vendredis, ou chez les musulmans, tous les vendredis, à oublier, demain, hein, de lui-même, hein, de lui-même. Elle est où, là? Conditionnement. Là, c'est des robotisés conditionnés. Chez les chrétiens, c'est pareil pour ceux qui vont à l'église et tout. Enfin, ils vont de moins en moins parce que aujourd'hui, on leur laisse, bon, dans beaucoup de familles européennes, on laisse la liberté de choix aujourd'hui. C'était pas le cas il y a quelques années. Voilà. Chez les juifs, c'est un peu plus que comme chez les musulmans puisque, voilà, il y a des rites, etc. et il n'y a pas le choix, quoi. Donc, l'enfant, ses choix sont limités. Par exemple, choix des couleurs des vêtements, ça, bon, il a le choix. Choix de ses chaussures, choix de, je sais pas, enfin, choix de, et le métier, même le métier, ouais, là, pas trop. Enfin, voilà ce que je voulais dire. Safiane, tu ne pars pas, ma chérie. On a une petite pause. Et si vous voulez qu'on développe ce sujet, qui est, ma foi, fort intéressant, parce que bon nombre qui sont à l'écoute ce soir, eh bien, je suis sûre qu'ils vont peut-être se poser des questions, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Chacun est libre de penser comme il l'entend. Il n'y a aucun souci. Moi, je vous donne mon opinion et moi, j'attends la vôtre en retour. Ok? Allez, on va marquer une petite pause. À tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Sans tabou, ben vous l'entendez que c'est sans tabou, hein, parce qu'on est là, chacun donne son opinion, son idée, voilà, sa pensée profonde, hein, on est là pour ça, pour échanger. Donc j'attends de votre part, et puis on est là surtout pour réfléchir, très important de réfléchir, et puis de prendre un petit peu de recul, de reconnaître certaines choses, de se dire, c'est vrai que, bon, voilà, par exemple, ce dont on parle là ce soir. Alors, tu ne pars pas, Safia, je te reprends juste après, j'ai Fatiha juste avant, là. Je te garde, Safia, ah. Hein, je te garde. Allô. Bonsoir, Fatiha.
Allô, Vanessa, bonsoir. Ça fait un bon moment que je ne t'ai pas appelée. Tu m'as manqué. Mais je t'écoute tous les soirs.
Ah ouais? Bah écoute, ça me fait plaisir.
Par contre, oui. Je vais te dire juste un truc comme ça. Il m'est arrivé à une certaine période un truc sur Facebook. Les trucs qui ont été piratés. Et donc, quand je t'ai fait une invitation pour entrer dans le groupe, tu n'as certainement pas dû, tu dois recevoir beaucoup de
Ah, peut-être, oui, parce voilà. Que j'ai beaucoup de demandes. Ouais, je vais regarder.
Voilà, bon, voilà. Je suis rentrée à 9h précise, j'ai allumé la radio, à 9h05, je t'entendais, et je tombe pile poil sur un sujet que tu as super bien développé, tu as tout dit. Et je suis entièrement, on n'est pas d'accord. Des béni-oui, de toute façon, on est loin d'être cette oui, génération. Oui. Voilà. Oui, oui. Alors, moi, pour donner mon humble avis.
Oui.
Et expérience, notre propre expérience, vu que moi, je suis de la génération, je vais dire, je suis née avant l'indépendance. J'ai fait une partie de l'école française, quelques années.
Oui.
Je retiens de ces quelques années de primaire. Mmh. Parce qu'après c'était le lycée, bon, on était indépendants, d'accord. J'ai fait quelques années et notre maison est toujours dans le même quartier. Mmh. Un quartier, je savais pas que quand on était enfant, on savait pas tout ça. Mmh. Il est catalogué comme ayant fait partie des quartiers européens. Mmh. À El Mouradia, voilà, plus précisément.
Oui, le golf.
Qui s'appelait La Redoute, voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a en fait des quartiers. Par exemple, quand on descend d'une rue à une autre, actuellement, je suis sidérée. Donc, c'est appelé on faisait soit partie du quartier européen ou bien du côté musulman. Bon. Par exemple, les Mimosas, c'est un truc bien connu qui débouche sur le chemin des Crêtes où il y a le cimetière chrétien. Donc, c'est le quartier musulman. Bon. Mmh. Donc, comme ça, on s'est retrouvé comme un cheveu dans la soupe. Ça ne veut pas dire qu'on a toujours vécu là-bas. Mmh. Je suis née à la Casbah, hein. Voilà.
D'accord.
Voilà, on l'a quitté après des années. Je suis née dans la même maison où était né mon père. On a quitté la Casbah pendant la guerre.
D'accord.
Voilà. Et donc on s'est retrouvé comme un cheveu dans la soupe parce que bon, mon père avait trouvé une occasion par rapport à un collègue de travail. Il y avait beaucoup d'Espagnols et tout ça. Mmh. Et on s'est retrouvé dans sa rue parce qu'il a vendu sa maison. Et bon, mon père, il a dit d'accord, ça, on sera plus, on aura plus d'espace parce qu'il y avait deux frères mariés, des enfants, etc. Donc voilà. Et donc l'école que nous on a faite, donc juste avant l'indépendance.
Oui.
J'en garde, alors, un enfant n'oublie jamais.
C'est vrai.
Et j'ai déjà parlé de ce sujet, j'ai appelé une fois. Il y a une année que dans ma tête a zappé. Donc, un enfant, quand il fait un tri, il oublie les gens qu'il n'aime pas. Mmh. Qu'ils l'ont marqué par quelque chose. Il se oui. souvient du visage.
Oui.
Je me souviens du visage méchant de cette personne. Dès l'âge de maintenant que je suis une grand-mère, je sais que c'était une enseignante que je n'aimais pas. Et je ne vais pas dire pourquoi, mais comme ça. Mmh. Bon, le fameux, certainement, racisme. Mmh. Parce que nous étions une petite poignée de musulmans, comme il disait parmi. Sinon, toutes les autres et notre quartier, on était heureux. Voilà. Mmh. Ah, moi, j'ai senti on a senti les bizarreries uniquement au moment de l'OAS. Bon, je rentre pas dans ces détails.
Oui, parce qu'il y avait des événements et tout ça, c'était la guerre, c'est
oui,
spécial.
Oui, parce qu'on voyait sur les murs et
là,
tout
là,
ça.
Là, c'est spécial. Quand il y a des événements, une guerre, etc., conflit, là, c'est des périodes spéciales. Mais
non, je veux pas rentrer.
Voilà, en temps de paix.
Non, c'est vraiment spécial. Vanessa, je rentre pas dans ce sujet parce que.
Non, mais j'entends bien.
Voilà, on était gamins. Je sais qu'il y a eu une bombe à quelques mètres de chez nous dans un café, ça s'appelait le café des Boulomanes, pour dire. Et donc, c'est que plus tard qu'on a compris, d'ailleurs très, très tard, à l'âge adulte, qu'on a appris que c'était des... Enfin bref, je rentre pas dans ce détail, je le refuse. C'est un autre sujet. En parlant de... Tu parlais de religion. Mmh. Alors, tu as très bien cerné la chose, vu que quand j'allais à l'école... Je garde un très bon souvenir de mes institutrices, excepté celle du CM1. Les autres, je ne garde que de bons souvenirs. J'ai eu des prix, j'étais bonne élève, j'aimais mon école. Voilà. Et on voyait, par exemple, quand Noël approchait, moi j'étais, ça me fascinait. On voyait pas de sapin. Moi, je n'ai aucun souvenir de sapin dans la rue ou de lumière ou quoi que ce soit. Mais en classe, je me revois toujours en train de dessiner le sapin de Noël avec des guirlandes et des couleurs. Voilà. Mmh. Le sapin m'a tellement fascinée dans mon enfance que quand je suis venue en France, chaque année, je me fais mon sapin.
Mais tu t'en fous, les hab, c'est quoi?
Façon de parler, par rapport à une certaine mentalité que tu sais très bien.
Ah non, mais moi, c'est voilà. Moi, je veux même pas savoir.
Non,
mais
tout ce qui est beau. Moi, je suis, comme on dit, moi, tout ce qui est beau, je prends.
Je veux même pas savoir, parce que moi, depuis ma plus tendre enfance, que ce soit ma grand-mère, ma mère, grand-père, toute la famille, tout le monde ramenait des sapins dans la maison. Donc, chez nous, on a toujours vu des sapins. Alors, tu vois ce que je veux dire?
Oui, mais nous, on a géré. Non. Alors, voilà, c'est bien ça. Quand on rentrait à la maison, le quartier carrément européen. On devait être 5 familles dans le quartier musulmane. Quand on rentrait à la maison, donc, quand on est à école primaire, donc depuis le début, on voit ses parents faire la prière, faire Ramadan. Je me souviens des voisines qui partageaient, par contre, par exemple, quand il y avait des fêtes chrétiennes, j'ai le souvenir de voisins que j'aimais beaucoup, Camille, on se souvient, surtout qu'il y avait des Espagnols, donc il y avait l'histoire de la Mona pour Pâques, etc. Mais on ne comprenait pas. Mais il y avait ce truc qui défilait, qui venait de maison à maison. Je garde cette image parce que c'est une rue à maison. Mmh. C'est pas des images, c'est des maisons. Bon. Quand on rentrait chez nous, donc, on a vécu dans cet espace où la religion de nos parents, donc on la voyait, donc, et tout petit, on nous a pas imposé, mais on trouvait que c'est rigolo. Moi, à 8 ans, peut-être, j'ai dû faire mon premier jour de Ramadan, avec la chihuahua, avec le...
La chihuahua, oui.
Donc, ça nous amusait. T'as le fachat. D'autant qu'on avait mon arrière-grand-mère qui vivait avec nous dans la même maison, elle était côté en bas.
Pour les gens qui comprennent pas ce que c'est la chihuahua, c'est une dinette, mais avec des vrais
ustensiles de cuisine en miniature.
En miniature, voilà. Donc, ce que fait la maman en terre cuite et tout. Ce que fait la maman, elle donne un petit peu à sa fille. Et sa fille, elle fait la même chose, la même cuisine, sur Nafar et tout. Hein, c'est ça, ou une petite cuisinière. Enfin,
Voilà. Et puis, pour nous récompenser, le premier jour, on faisait le ramadan. Ça dure encore jusqu'à présent pour ceux qui le respectent la tradition.
Ah ouais.
L'enfant, le soir, il dit sherbet, donc, sherbet, ce sirop. Ouais. On va dans les plus proches parce qu'on avait de la famille tout autour, ma tante, etc. On allait le sherbet et puis on revenait avec des sous.
Donc, ça nous amuse. Ça récompense. Ben oui.
Bon. Donc, on savait, sans savoir ce que c'était exactement, Ramadan, et on voyait, ma grand-mère, on voyait les aînés faire leur prière. Mmh. Ça s'arrête là. Mais à aucun moment, par la suite, même après l'indépendance, on a vu nos parents nous tarabuster religion, dîn, faire la prière, etc.
Ça n'existait pas, ça, avant.
Ça n'existait pas. Mais
avant, ça n'existait pas. D'ailleurs, en parlant de prière... on voyait surtout les personnes très âgées, hein, les grands-mères, faire la prière. Et d'ailleurs, même pour la Mecque, c'était les grands-mères, les grands-pères, vraiment les personnes âgées qui allaient. Et c'était toute une expédition, tu vois, c'était une aventure. La grand-mère
Moi, je sais que j'allais avec ma grand-mère paternelle, puisqu'elle vivait avec nous. Moi, j'allais avec ma grand-mère, donc de la Redoute, à la place, à l'époque, c'était la place du gouvernement que ça s'appelait. Mm-hmm. La place des martyrs. Maintenant, je sais pas si c'est la place du migrant. Je sais pas comment. D'accord. Ils l'ont débaptisé.
Oui.
On allait le Jama'al Kbir. Donc, en bas, il y a la pêcherie et tout ça. Elle allait faire sa prière. Mm-hmm. Je garde un bon souvenir de ce côté-là, mais je ne me souviens pas. Quand on rentrait dans la mosquée, c'est vrai, dans mes souvenirs, je ne me souviens pas. Je me souviens de ce petit truc, c'est-à-dire le fait d'aller avec elle. C'est-à-dire qu'elle allait à la prière, à la mosquée, Jama'a al-Kbir. Bon. Mais par la suite, après l'indépendance, on a eu d'excellents professeurs. On a eu d'excellents professeurs qui n'ont jamais été, et parmi eux, beaucoup donc étaient français, qui sont restés en coopérant technique. On a eu d'excellents profs. Donc, il y avait un enseignement qui ne nous guidait pas vers un chemin bien défini. C'est-à-dire, vous allez par là, vous allez par là. C'est-à-dire qu'il ne guidait pas notre pensée. On veut que vous pensiez.
Oui, mais ça, c'est après les années 90, ma chérie. C'est arrivé avec la décennie noire. C'est là où les mentalités ont complètement été bousculées. Tout a changé. Tu reconnais, il y a beaucoup de choses qu'on reconnaît plus depuis la décennie noire.
Plus ou moins.
Mais avant, non. Les gens se sentaient plutôt, l'Algérie est tapée après l'indépendance. C'est un pays à tendance musulmane. C'est un pays musulman. C'est normal que les gens, ils pratiquent l'islam. C'est un pays musulman. Tu vois ce que je veux dire? Voilà.
C'est normal.
Voilà. C'est normal. Donc, ce qui fait que c'était la tendance générale. C'est normal. Donc, les gens, ils pratiquaient Ramadan. Moi, je me souviens, avant les années 90, moi, je partais régulièrement. Eh bien, faire Ramadan, le soir, il y avait tout le temps des soirées sur les places à Alger, partout.
Personne ne se gênait, ils allaient,
il y avait des soirées musicales, des concerts, des soirées dansantes, des dîners dansants, tu sais, par exemple, à la fin, ils leur font couscous et tout. Donc, il y a du thé et tout, les gâteaux, ça danse dans les salles. Il y avait ça avant. Je veux dire, je connaissais même des femmes qui allaient faire leur prière parce que c'était comme ça. Elles voulaient aller tarawih. C'est là que j'ai appris. Je connaissais pas ce que c'était. Je l'ai appris bien plus tard. Je devais avoir 20 ans quand j'ai appris ce que c'était tarawih, pour te dire, à 18 ans ou 20 ans. Eh bien, elles allaient. Elles me disent, elles vont tarawih. Je dis, c'est quoi? Elles m'ont dit, il faut la prière après le jeûne. J'ai dit, ok. Et après, ces femmes, elles disaient, je vous rejoins après. Et après, elles te rejoignent. Elles viennent à Tipaza, ou là, parce que nous, on était à côté de Tipaza. Donc, il y avait beaucoup de concerts qui étaient donnés à Matares et tout. Donc, ce qui fait que, après, elles viennent, il y avait des chanteurs, les gens sont en famille, sur les gradins, avec les enfants et tout. Ça dansait, tout ça, c'était sympathique. Et ces femmes, il n'y en avait pas des masses, c'était surtout les personnes âgées qui allaient, mais bon, t'avais des femmes, des mères de famille qui allaient, et après elles rejoignaient leurs enfants, elles venaient, elles dansaient, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas ce, tu comprends ce que je veux dire? Donc c'était une époque où tout était fluide, léger, nia, tout va bien. Mais aujourd'hui, même sur les plages, Moi, on m'envoyait des vidéos que j'oserais même pas mettre sur mes murs. Aujourd'hui, on me les envoyait, hier, etc. On m'envoie des vidéos de certains endroits dans les pays du Maghreb. Je parle pas de l'Algérie seulement, hein. Pays du Maghreb, certains endroits où t'as des gars, des mecs qui passent, des hommes. Moi, j'ai vu une vidéo aujourd'hui qui passe là-bas et tout ça, là, tout ça, avec un haut-parleur qui font là. Et les gens, ils sont sur la plage. N'est-ce pas que la plage sur le, en famille, transat, parasol. Ouais, donc, Jayzine. Je comprends pas trop moi, mais après on m'a expliqué, parce que je comprends un petit peu quand même, mais pas trop. Donc on voyait bien qu'il parlait de religion. Genre, revenez à votre raison, qu'est-ce que vous faites là, ta, et les femmes, couvrez-vous, des trucs comme ça. T'imagines? Alors là, c'est choquant. Là, c'est choquant. C'est-à-dire on dit, regarde en France, on dit, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Ben, eux, ben, cette expression, ben, ils en ont rien à faire, ils font fi. Ils font fi parce qu'ils prennent toute la place. Ils prennent la liberté. Si les gouvernements leur donnaient la possibilité, ben, on reviendrait pire qu'en 90. Puisqu'ils se permettent sur les plages, je l'ai vu de mes yeux, c'est pas on m'a raconté. Elle m'a envoyé, elle m'a dit, regarde, elle m'a dit comme ça, tu vois tes yeux. Ah oui, j'ai vu, hein. Et j'ai entendu, j'ai vu les pancartes ou Jay-Zin, au parleur et tout. Et ils demandaient aux femmes de se couvrir comment, ou Hakda, ou Lé, ou Din, ou Rbé, ou Hakda. Qu'est-ce que vous êtes? Hambabakoum. Tout le long de la plage, allez, va te doucher, tais-toi, laisse les gens vivre comme ils veulent. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable. On dirait que s'ils ne ramènent pas avec eux les autres, ils n'auront pas droit au paradis. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils emmènent tout le monde. Le bonus, c'est ça. Tu sais, c'est comme, je ne sais pas, t'achètes un truc et on te dit, ah ben vous aurez un bonus et une réduction ou un prix, hein, un cadeau, si vous parrainez une personne. Ils sont en train de nous parrainer. Mettre parrainer, Nesh. Rakhalini tranquille. Roi. Wahdak le djinnad. Moi, j'en veux pas. C'est incroyable. C'est à te sortir de tes gonds. C'est ça. Fatiha, tu pars pas, on a une pause. À tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h. Confidence. L'émission Sans Tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Sans tabou, Vanessa, c'est ça, confidence jusqu'à minuit, jusqu'à 23h, pardon. Ah, Yanis me regarde avec des yeux. Fatiha, oui, je te laisse terminer, Fatiha.
Voilà, je t'ai dit, nous, on a fait la part des choses, comme tu disais, si bien, parce que nos parents n'avaient pas le bâton sur nous pour, tu comprends, l'époque que je t'ai décrit à peu près, dans laquelle on a vécu. Ouais. Ce qui fait que par la suite, on a fait chacun de nous, on a eu notre propre opinion de tout. Si bien que nous étions six, bon, pour l'instant, on en a perdu deux, mon frère aîné et ma sœur, et ma sœur, paix à leurs âmes, c'était deux grandes personnes. Mon frère, c'était notre modèle. Il m'a ramené le concerto de mes rêves du RFS, concerto numéro 1 pour piano. Voilà. Je l'avais écouté. Je l'avais entendu à l'âge de 9 ans, en colonie de vacances.
Ah ouais. T'étais branchée musique classique?
Non, attends, non, à 9 ans, non, à 9 ans, parce que il se trouve que il y avait une colonie de vacances dans en Haute-Savoie et dans le Rhône. Moi, je suis venue une seule fois juste avant l'indépendance. J'avais 9 ans, un an donc avant l'indépendance. Donc je suis venue et on nous, c'est-à-dire qu'après le truc qui reste, le subconscient qui se réveille, on écoutait une musique, je me rappelle qu'on écoutait une merveilleuse musique dans un jardin où il y avait d'immenses arbres avant d'aller manger. Cette musique me fascinait donc depuis toute jeune. De toute façon, je m'ai toujours réfugiée dans la musique jusqu'à maintenant. C'est ma psychothérapie, c'est tout. Et universelle, c'est pas tout ce qui passe à l'oreille. Et cette musique, j'avais 9 ans donc, hein, cette musique, un jour, j'écoutais chaîne 3 à Alger. Je l'écoutais à l'âge de 15 ans, comme ça. Je l'écoutais. Subitement, ils l'ont passé. Et donc, la sensation du déjà vécu.
Ah oui.
Mais c'est pas possible.
Madeleine de Proust.
Voilà, le truc de déjà vu. Mon Dieu, j'ai déjà écouté ça, Yarbi, ou ce matin. Où est-ce que j'ai écouté ça, ou ce matin? Et il se trouve que mon frère avait été en URSS, parce qu'à l'époque, le Boumediene, il envoyait les étudiants dans les pays de l'Est.
Oui, c'est vrai.
Roumanie, Hongrie. Mon frère a été à Moscou, et après, il a fait une année d'anglais, et après, il a fait sa spécialité. Je repense très fort à lui depuis la guerre en Ukraine, parce qu'il a fait toute sa spécialité à Kiev. Voilà, donc en métallurgie, donc ils ont fait de très belles études. Mais il est revenu avec un changement. Donc, il, déjà, avant de partir, on ne se souvient pas très bien, il ne faisait pas le ramadan, mais bon, c'était pas le problème.
Il est libre. Moi, j'ai envie de dire, il est libre.
Ah bah oui. Bon, notre père, peut-être qu'il le savait, mais il ne le bastonnait pas. Il faisait semblant de ne pas savoir.
Tu sais, c'est pour ça que avant, ils étaient un petit peu, bon, dans une mentalité, c'était avant, même en France, avant en France, je veux dire, les communions, les dimanches, on les voyait défiler, hein, les filles en blanc. Moi, j'avais des copines, elles avaient leurs robes, là, je sais pas comment ça s'appelle, tu sais, les robes blanches, etc. Elles fêtaient leur communion, moi, j'allais voir et tout, parce que je faisais tout avec eux. Je participais pour voir, tu vois, j'aimais bien, c'était mes copines, mes voisines. Donc, communion avec mes copines catholiques, avec la grande croix, etc. Ils faisaient la communion à l'église, avec, habillés avec la robe blanche, là. Et puis, t'en as d'autres. Et puis, chez les juifs, c'était les garçons faisaient la bar mitzvah, les filles, bon, pouvaient... C'était pas une obligation, les filles, de faire la bat mitzvah, mais bon. Mais les garçons, une obligation, la bar mitzvah, en tout cas. Donc, voilà, tu vois, chacun faisait ses trucs. Voilà, c'était sympa. Mais, si tu veux... Ce que tu me dis là, quand tu me dis avant, voilà, c'est, je sais pas ce que j'allais dire, voilà. J'allais dire quelque chose de très important, mais je sais plus.
Oui, ça va revenir. Il faut.
Je sais pas où je suis partie.
Comme dit ma petite fille, j'ai une toute petite fille. Elle me dit, mamie, quand tu oublies quelque chose, il faut pas y penser sur le champ, rester figé. Il faut oublier. Et au moment où tu t'embarques sur autre chose, ça va revenir. Ah oui, voilà ce que je voulais. Bon, ils sont logiques les enfants.
C'est vrai. C'est vrai.
Et ils ont raison. Et alors donc, mon frère, paix à son âme, ce qui m'a tout appris,
Ah oui, tu parlais du mois de Ramadan, pardon.
Hein, c'est ça. Oui, je parlais du Ramadan.
Qu'il ne faisait pas. Mais aujourd'hui, nous, on devrait mettre ça de côté et arrêter de faire semblant de machin, etc. Et puis de forcer les autres à le faire ou pas. Dire que c'est cette liberté qui manque, justement, de faire ce qu'on a envie de faire. Oui.
Vanessa, il a été donc en URSS. Donc, donc au bout des études, comme ça, il est revenu. C'était un communiste. Hein. Donc, en Algérie, ses journaux, c'était, comment il s'appelait, Algérie Républicaine. Puis, il y avait un autre journal français qui lisait là-bas. Et pendant les années 90, il avait même peur de lire ses journaux, parce qu'après, il n'y en avait plus, il ne les lisait plus. Il avait peur, il se sentait même persécuté. D'accord. Parce que... Bon, je veux pas revenir dans cette période parce qu'il rentrait dans les maisons.
Je te laisse terminer parce que
voilà. Et alors, donc, quand il est revenu, il faisait toujours pas le ramadan, mais il respectait tout le monde. Au moment de la rupture du jeûne, il se mettait à table avec nous, il mangeait un petit peu, il se retirait, mais jamais il le montre. Il ne mange devant nous. Là, il prend son café. Pourtant, son café, c'est son café.
Ben, ça devrait pas gêner normalement. Normalement, dans un monde normal. Tu sais, dans un monde normal. Dans
un monde normal.
Je parle pas de lui, mais en général, lui, il est obligé de faire comme tout le monde. Dans un monde normal, tout le monde devrait être libre de faire ce qu'il veut. Mais on n'est pas dans un monde normal parce que les gens, quand ils viennent en France, ils n'ont pas le choix.
Non.
Ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de se...
Non, ce n'est pas... Vanessa, c'est pas...
Michel Arrouk, il est obligé. Nes, quand ils viennent en France, ils sont obligés de se plier aux lois. Mais quand ils sont chez eux, ils font la loi. C'est ça.
Lui, il faisait ça par respect. Lui, il faisait ça par respect. Avant d'entrer dans une chambre, quand il rentre dans une chambre, moi, je me rappelle, toute jeune, que c'était lui qui s'annonçait quand il rentrait dans une chambre, même s'il la porte est ouverte.
Quelqu'un est dénudé ou là, c'est normal.
Voilà, c'est le respect. C'est respect. Et c'est ça qu'on a appris, notre génération, sa génération.
Ça, c'est bien, c'est des valeurs.
C'était le respect, c'était pas le respect. C'était pas le genre qui disait oui, je m'en fiche de tout le monde, allez, je vais manger. Non, je mange devant toi.
Je te dis ça. C'est parce que nous, dans le respect, dans le mot respect, on y met tout et n'importe quoi. Et après, ça devient d'une hypocrisie incroyable. On devient schizophrène. C'est-à-dire que Ness, ou là, moi je connais des gens, mais ils sont moches. Mais ils sont obligés devant les gens de faire semblant. Je dis, mais non. Donc, la preuve, je dis que je fais pas la prière, je le dis ouvertement. Et alors, ma famille, tout le monde sait que et d'ailleurs, dans ma famille, on fait pas. Enfin, à part les personnes âgées, machin, etc. Mais, ce que je veux dire par là, c'est que on devrait être, si tu veux, libéré de tout ce carcan. On devrait être libéré parce que les gens, ils sont enchaînés dans leur cerveau. Ils sont obligés devant les gens de faire semblant. Moi, je connais des gens qui sont, qui sont obligés de faire semblant, de pratiquer. Kane, par exemple, ils vont, par exemple, prendre un verre d'alcool ou la hadja, eh bien, ils sont obligés devant la famille, devant les gens, de faire semblant de anaya jamais, mena machin. Mais arrêtez! Arrêtez, qu'est-ce que c'est que ça, tu comprends? Libérez-vous, faites ce que vous avez envie de faire, bon sang. Les gens, ça vous glisse dessus. Demain, tu vas te retrouver dans un trou, parce qu'on va tous mourir. Donc, Nas, ils vont te redonner la vie. Mais qu'est-ce que j'en ai rien à faire des gens? Mais vraiment, ça me glisse dessus. Je fais ce que j'ai envie de faire, voilà. Tout ce que j'ai envie de faire, je le fais. Voilà, je fais pas de mal aux gens, c'est tout. Mais tout ce que t'as envie de faire, t'as envie de dire aux gens, fais-le. C'est tout. Vivez votre vie, ne passez pas à côté. Et vivez là, à ciel ouvert. Voilà, Rabbi chauffe-com ou l'abd de trafo menno. Wesh l'abd, y'a un babak, ou m'y va aux toilettes comme vous l'abd. Ma fait ouelou, hta hajab et hajab l'abd. Alors donc, le canon Rabbi chef l'abd, c'est un saint, il lui met des ailes dans le dos, il le fait asexuer, et mayakul mayishar mayar, là où vous pensez. Il le fait vraiment quelqu'un de sacré. Ou l'arbi wasana, comme les animaux. C'est-à-dire qu'on mange et on fait autre chose comme les animaux, et même les bébés, on les fait comme les animaux, ils font, ça veut dire qu'on vaut pas mieux. Voilà, c'est ça. Et les gens, ils ont rien compris. Donc les gens, ce qui fait que ils respectent les gens, ils respectent façon de parler. Ils khafou mennes, le regard des autres. Ça me khafouch le regard tarbi. Khafou ma rbi, mais khafouch mlab. Lab, j'en ai rien à faire. Ich qfara sou lhit. C'est vrai ou pas?
Oui, c'est entièrement.
Mais oui.
Je parle de ma génération. La religion est une religion d'État. Donc tout le monde c'était pareil dehors.
Ah bah oui, ils vont en prison parce qu'ils mangent
là-bas,
fort.
Là-bas, voilà.
Mais c'est à Ken, il y avait des travailleurs.
Bon, oui.
Ils ont mangé, ils ont bu. Arco, il y a quelques années en arrière, il faisait très chaud. Au Ramadan, jam asrena. Au hadouk khdamin, ils travaillaient, ils avaient chaud. Ils sont mis dans un coin, cachés. Ils ont bu de l'eau, ils ont mangé un petit peu. Normal, ils ont mangé, ils ont bu, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont partis chercher les gendarmes, menottés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué personne, ils ont mangé. Mais c'est quoi ça?
Ben oui, parce que on le fait très bien.
J'aime tellement ma liberté. Pour moi, ma liberté, tu sais quoi? Ma liberté, elle vaut le monde entier. C'est-à-dire que je pourrais mourir pour ma liberté. C'est pas possible. Je préfère me savoir morte que pas libre. Hadi, je peux pas. C'est pas possible. Si je suis pas libre de faire ce que je veux. Alors donc, je ne pourrai jamais vivre dans un pays comme ça à cause de ça. À cause de ça, hein.
Mais attends. Vanessa. Hadi, on kemel. Ça, t'as évoqué le problème de non-liberté.
Ben oui.
Ou de ce qui se passe de l'autre côté.
Ils se plient aux islamistes.
Mais moi, je te parle, ce qui est plus grave ici, en France. Pays laïque où tu as le respect des libertés, etc. Ce qui est aberrant et ce qui est incroyable, c'est justement ces parents dont tu parles, par exemple, qui font partie de ceux que tu as évoqués, obligent leurs enfants à faire Ramadan. Je te parle, par exemple, exemple. Je te donne un exemple bien concret. Quand je suis arrivée, qui m'avait choquée, et c'est après, quand je les ai vus, etc., comment ils évoluent, et c'est là qu'on voit, et dit que t'as, oui, les jeunes sommes, parce qu'ils ont tellement peur de protéger leurs enfants, il faut, alors qu'ils savent très bien que quand ils sont majeurs, ils prennent la poudre des tempêtes et ils vont vivre leur vie. Et ben, il y avait une étudiante, qui avait demandé, c'était quelqu'un, son camarade m'avait demandé, je lui donnais des cours, son camarade, et il m'a dit, Fatia, quand est-ce que Ramadan, c'est-à-dire l'Aïd, c'est quand? L'Aïd, c'est quand? C'était 2 ou 3 jours après. Je lui ai dit, mais depuis quand tu t'es déjà fait à l'Aïd? Ça m'avait interpellée. Il m'a dit, parce que j'ai une copine à la fac, qui était pressée que ce soit l'Aïd. Pourquoi? Parce qu'elle lui a dit que Ramadan, ça lui coûtait très cher, vu qu'elle mangeait tous les jours dehors. Donc, elle était obligée de dépenser de l'argent.
Ça coûte
pour
cher,
ses parents. Alors, allège, parce que pour ses parents, Ken, c'est une étudiante, majeure.
Eh voilà. Oui, tu vois, donc, c'est ça que c'est mon
C'est ces enfants-là qui sont perdus. Je ne parle pas de ceux qui sont là.
Il y a une auditrice, elle a appelé il y a... C'était juste avant le... Après, là, c'était le premier confinement ou avant, je ne sais pas. Pas à Ramadan, mais l'année d'avant. Elle avait appelé à l'antenne, hein, tout le monde l'a entendu. Et on parlait, madame Dan, on parlait de ce sujet justement, c'est de cette mentalité de d'obliger et donc elle racontait son histoire, son fils elle a 8 ans, elle a 9 ans, donc il mange à la cantine et elle travaille, son fils il mange à la cantine. Ramadan, pas Ramadan, il mange à la cantine le midi. Eh bien, il s'est fait tabasser Mskin, il est venu bleu, avec des bleus et tout. Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Qu'est-ce qui t'arrive et tout? Il lui dit, maman, ils m'ont frappé à l'école, ses camarades, parce qu'ils l'ont dit, t'es un mécréant, hein, t'es un cofard, hein, tu manges, des enfants de 9 ans, hein, de son âge, hein, tu manges, c'est Ramadan, hein, t'es un cofard, tu vas à la cantine. Ils l'ont tabassé. Non, mais regarde. Alors ça, si c'est pas l'éducation, c'est pour ça que je parle comme ça. Parce que si les gens.
Ils n'ont plus le libre.
Est-ce que ces enfants ne sont pas robotisés au point de devenir des enfants qui sont, si tu veux, qui ne savent plus penser par eux-mêmes et qui pensent d'une manière qui fait peur, quoi, tu vois. Donc, moi, je dis qu'à un moment donné, même quand on devient adulte, il faut se libérer de son enfance. Ou plutôt des conditionnements de son enfance pour devenir
Avoir les moyens de base, les moyens d'éducation de base pour pouvoir devenir. Voilà. Vanessa, quand ils sont déjà formés, tu en parles comme ça. Comme ça, un exemple qui me vient, mais vraiment parce qu'il y a un truc qui est arrivé à une parent très proche à moi. Dans un immeuble, elle a déménagé, donc son mari et elle, ils ont déménagé parce qu'ils ont eu 2 enfants et tout ça. Et elle tombe dans un immeuble où c'est vraiment le mélange, c'est très beau comme mentalité. Il n'y a pas de communautarisme et tout ça. Et donc, la personne qui habitait avant elle, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait dit au voisin du dessous, elle pensait bien faire, la pauvre, elle est militaire. Elle lui a dit, oh, vous savez, c'est un couple d'Algériens qui vont venir ici, donc vos compatriotes. D'origine algérienne, hein, voilà. Donc ils étaient contents et tout. Quand même, quand ils sont arrivés dans l'immeuble, ils ont fait des travaux, rénové tout ça. Et les voisins du dessous étaient pressés de voir qui étaient ces nouveaux arrivants entre guillemets algériens pour lier amitié ou je sais pas quoi. Ils viennent faire tâche. C'était Aouel Moharram, je risque pas de l'oublier parce que on a été choqués de voir des Ferrero Rocher. Ils sont venus avec du chocolat Ferrero Rocher alors que c'était la canicule de 2019. Allez, voilà, faut le faire. En plein mois de juillet, début juillet. Et avec du couscous. Donc, la parente, elle était étonnée. Pourquoi ils viennent? Et pourquoi ils nous ramènent du couscous? Ils étaient en plein travaux et des Ferrero Rocher. Je s'étais rendu compte que c'était Aouel Moharram. Bon, quoique on respecte ces dates-là, comme je respecte toutes les dates de
tout ce qu'ils font, c'est Aouel Moharram. J'arrive pas à le dire.
C'est le jour de l'an. C'est le jour de l'an.
Ah bon? Nayer, c'est le jour de l'an, moi. Je connais Nayer.
Nayer. Il y a Nayer parce que c'est une date fixe, parce que c'est solaire, c'est l'année agraire, etc. Et juste avant Moharram, puisque nous, c'est, les musulmans, c'est le mois lunaire, pour la religion hébraïque, donc c'est aussi lunaire. D'accord. Juste avant, il y a Rosh Hashanah, comment on dit? Rosh Hashanah, Rosh Hashanah. Oui. Rosh Hashanah, oui. Alors c'est Sema, donc voilà. Quand on le traduit en arabe. Ces voisins-là, il se trouve que c'est un couple de fanatiques. Leurs enfants, ils en sont des fanatiques. Et le jour où ma parente, elle s'en est aperçue, elle a refusé, elle voulait pas de familiarité avec eux.
Ah ben, je comprends.
Donc, au large. Eh bien, le mari et la femme. Je peux pas te décrire la mentalité. Il devrait retourner. Je sais pas, même pas à Alger où il est dans une capitale. Il devrait retourner dans un patelin perdu là-bas et vivre à l'état préhistorique. Alors, le mari, juste au-dessus de lui, qu'est-ce qu'il fait à un moment donné? Parce que il voyait que ses compatriotes ne voulaient pas d'eux. Et lui, sa femme parle pas français, etc. Donc, il s'est dit, tiens, c'est une aubaine, cette Algérienne qui arrive, elle est cultivée, nanani, nanana.
Ils peuvent ne pas parler français, c'est pas leur langue, c'est pas grave.
Non, c'est pas ça. Ouais. C'est que lui, il avait, c'est-à-dire qu'il allait se décharger, puisqu'elle n'a pas d'amis, etc. Voilà, il devait dire, elle va l'aider pour des tas de choses.
Tu parles de la mentalité, tu me dis, c'est des mentalités.
Voilà. Non, c'est pas qu'elle a des femmes, elle a. Non, ça n'a rien à voir.
Ouais.
Je Voilà, c'est pas ça. Ouais. Et finalement, comme un jour il y a eu un truc, ils ont compris que c'était la barrière entre nous. Hein, on ne veut pas de communautarisme. On n'a pas quitté un endroit pour replonger voilà, à pieds joints ailleurs. Donc on est désolé. On est désolé. Voilà. Ils ont compris. Mais après, il y a eu un harcèlement qui a commencé parce que la parente en question, elle fume. Donc quand elle fume, elle va à sa fenêtre. Elle fume pour ne pas qu'il y ait de la fumée dans la maison. Elle va dans sa chambre. Elle va à la chambre des enfants. Voilà. Ma propre mère lui aurait acheté des cigarettes. La irhamha yemma. En Algérie, elle lui aurait acheté. Voilà, pour dire la mentalité. Voilà. Elle fume à sa fenêtre. Elle a un verre où elle noie sa cigarette quand elle finit. Elle la termine même pas. Et ce voisin, eh bien, il s'est mis à la harceler à cause de la cigarette. Elle le voit entrouvrir les volets. Je vais dire que les auditeurs m'excusent pour ça, mais les Algériens vont bien comprendre qu'un homme qui dit ça à une femme, c'est très grave. Et en plus, ils le disent en arabe. Ben, les voisins dans la cour, ça résonne, ils comprennent pas. Donc, ils le disent pas en français parce que c'est un lâche. Les auditeurs qui me pardonnent. Ils lèvent la tête et ils disent « Ah
ouais ?»
Oh là là, voilà, tu vois le cri que tu as poussé. Ça veut dire pour nous. Il y a le khamja, et puis il y a un autre terme. Oui, il y a le khamja.
Qu'est-ce qu'il fait en France, ce type-là? Faut qu'il aille
voir. Il a fait ça. Ah,
même l'Afghanistan, et encore.
Voilà. C'est devenu un harcèlement de fenêtre en fenêtre. Dès qu'il sent qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre, il lève la tête et lui siffle et lui crie. Alors. Elle a été déposée une plainte, pas une plainte, mais la courante. Le commissariat, ils lui ont dit, vous savez, madame, peut-être qu'il y a tellement de trucs plus grands qu'on pense que ça va être un truc sans suite. Tu sais ce qu'elle a fait, Vanessa? Eh ben, elle a déposé plainte au grand tribunal. Elle a déposé plainte, elle a dit allô, pour harcèlement. Elle a rentré dans
menace.
Un article.
Ben oui, attends.
C'est-à-dire qu'il dit ça en arabe. Je mets
fermement. Je veux pas que les gens comprennent. L'hypocrite.
Et en plus, il devait s'imaginer qu'elle le faisait en cachette son mari.
Parce qu'il est frustré, le mec.
Voilà.
Pour moi, ce type, il est frustré. C'est la frustration. Quand tu insultes une femme, tu la sors de ton cœur de cette manière-là. Ça veut dire qu'il ne peut pas résister. Ça veut dire, cache-toi, je n'en peux plus.
Voilà.
En fait, ils sont frustrés, ils peuvent pas retenir leurs pulsions, ces gens-là.
Voilà. C'est tout. Ils travaillent. Donc, là où ils travaillent, il doit certainement voir des femmes fumer. Qu'est-ce qu'il doit penser de lui? Et comme tu as dit la chose, qu'est-ce qu'il fait ici? Voilà. Le vendredi, il est jeune, il va à la mosquée. Et il entraîne avec lui, parce que je les avais vus.
Il faut bien qu'il prenne la descendance.
Il entraîne avec lui ses fils qui ne sortent jamais. Ils ne sortent jamais.
Oh là 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 là, quelle horreur.
Ça, c'est dangereux. Ces enfants-là qui grandissent comme ça, c'est dangereux pour eux. Ça, oui.
Bien sûr que c'est dangereux. Voilà. Insulter une femme qui lui a rien fait. Attends, bien sûr que c'est dangereux. Des gens comme les enfants qui n'ont pas, ces enfants, ils n'ont aucune activité, n'ont rien du tout. Qu'est-ce que c'est que ça?
Alors qu'il y a tout dans Paris.
Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire des générations, ces enfants, de frustrés. Parce qu'ils voient la vie comme une vitrine. Ils vivent à Paris. Ils voient leurs camarades vivre leur vie normale. Ils font rien de mal, ils vivent leur vie normale. Avoir des activités, aller à un concert, je sais pas, aller faire des activités, faire un sport, faire du... aujourd'hui, ils font adéquatement à la planche, machin. Moi, je les vois, jeunes, aujourd'hui, ils ont besoin de faire tout ça. Ils vont sur Internet, ils surfent. Oh, mais ils ont le droit de rien, ils devraient le jamais. Non, mais attends, ces enfants, c'est la vérité. Il y en a plein, ils sont partis comme ça en Syrie. Ils sont partis comme ça en Syrie, ils ont pris leurs enfants.
Donc, soit ils sont tellement frustrés parce qu'on sait qu'ils sortent pas, ces enfants. Hein, la mère ne sort pas. Ils vont nulle part. Ils ne vont nulle part. Moi, je te le dis. Ils vont nulle part.
Écoute, c'est triste. On va aller très vite, ma chérie. Ça fait une...
Voilà. Donc, ce sont ces enfants-là qui, si, par exemple, ils ont les éléments nécessaires pour réfléchir d'eux-mêmes à l'âge adulte,
ils choisiront un train de vie, ils choisiront leur mode de vie.
J'espère qu'ils vont s'en sortir, oui, surtout. Oh là là.
Ou bien, ils peuvent aller dans le même chemin que leur père.
Et des fois, c'est pire. Ah non, mais ça fait peur.
Voilà.
Fatiha, je t'embrasse fort, ma chérie, je t'embrasse.
Merci. Gros et bisous. Puis, je suis désolée pour avoir retenu tout le monde comme ça, mais bon.
Et reviens vite, je sais que t'as beaucoup de choses à dire. Reviens.
Allez, au revoir.
Bisous. Au revoir, Fatiha. Ouais, c'est dur, hein. Victime de sa, de son éducation, de sa naissance. Mon Dieu. Les enfants, ils ont besoin. Il y a un épanouissement. Il y a un âge à tout. Ils sont curieux de la vie. Les enfants sont curieux. Ils ont besoin de connaître. Ils ont des sens aussi qui se développent. L'âge de l'adolescence, un garçon, bah, il tombe amoureux d'une fille. C'est normal. Il tombe amoureux d'une fille, son cœur bat pour elle. Voilà, c'est juste comme ça. Petite amourette, un petit flirt. Non, c'est pas possible. C'est étouffer dans l'œuf une personnalité qui est en train de se révéler. C'est terrible, hein. Ah ouais, terrible, hein. Terrible, vraiment. Alors, on retourne à Safia, parce qu'il y en a depuis tout à l'heure, elle attend. Oui, Safia, ma chérie. Merci, non, hein, d'avoir patienté, hein. Elle est restée longtemps, en fait, elle avait des choses à dire.
Non, elle a bien fait avancer le centre du problème, hein. Ouais. Oui, effectivement, on est acculé dans notre société française à ce type de fonctionnement en décalage, où est-ce que eh ben, il y a des mentalités qui sont recluses, complètement enfermées et rances.
C'est terrible.
Font que,
tu te rends compte que sa sœur, je crois, oui, c'est ça. Je sais plus. Elle se fait, cette femme, enfin, dont elle parlait, qui se fait insulter par cet homme. Cet homme qui se dit pieux, hein, puisqu'il va à la mosquée tous les vendredis et tout quoi.
Ouais,
il l'insulte femme, enfin, pire que femme de mauvaise vie, parce qu'il Ramja, ça veut dire pourriture, quoi. Oh, il l'a traité de pourriture. En arabe, c'est puissance 1000. T'imagines?
Ce que je veux te dire.
Il est croyant, Hadazar Maya. Quelle croyance, c'est quoi ça?
C'est sacré dans la foi d'un homme pieux, il y a la tolérance. La tolérance. Et s'il y a un principe qui est sacro-saint, je puis utiliser ce syncrétisme, c'est qu'en islam, il y a la tolérance et il y a la figure du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était dans ce principe. Et ce type de mentalité, de fonctionnement complètement rétrograde et taré, barélingué, ils détruisent déjà leur propre sang, leur propre enfant. Allô?
Oui, je t'écoute.
Après, il y a ce qu'on appelle les dommages collatéraux avec la petite voisine. Hein. C'est pas malheureusement que le témoignage de Fatiha, c'est communément répertorié et un fléau de société. Moi, j'aimerais quand même revenir à comment tu as ouvert ton débat du soir.
Oui, oui.
Parce que tu étais dans le propos de la liberté, enfin, ce qu'on appelle l'esprit critique.
L'esprit critique, voilà.
Tu sais, pour construire un homme et une femme, c'est pour qu'il un être humain, il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action. Et ça, c'est toute la construction dès la prime enfance qui se joue dans tout ça, avec ce qu'on appelle l'esprit critique. Mmh. Et comme tu disais, il y a le libre arbitre et le libre choix. Tu sais, il y a le fléau de la balance qui fait qu'un homme, pour qu'il soit équilibré, il puisse vraiment se déterminer en fonction de sa structuration. Et un enfant, comme tu as dit, Khalil Gibran, et ça c'est 1001% dans tous les enfants que j'ai encadrés, que j'ai chéris dans ma vie, vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les enfants de leur génération. Enfants ne sont pas vos enfants.
Ils ont pas compris ça.
Ils ont le privilège d'avoir vous comme parents, mais la seule responsabilité, c'est pas moi qui suis pas mère, hein, mais la seule responsabilité des enfants, c'est de leur déployer leurs ailes et de les créer pour ce qu'ils sont. Et ne pas vouloir en faire ce que vous voulez.
Oui. Mmh. Les accompagner pour les rendre autonomes.
Les parents ne sont que des accompagnateurs, ils sont des tuteurs. Oui. Ils n'ont pas de droit sur sur cette créature. Mmh. C'est la créature, alors créateur, c'est déjà ça. À la base, dans le béaba de la chose. Et après, de l'autre côté, un vrai musulman, c'est quelqu'un qui est opérationnel, qui est au taquet, qui pourrait lire une paracha, qui pourrait se déployer.
Mais écoute, je sais pas ce que c'est un vrai musulman, parce que pour moi, les religions, en fait, les religions toutes, hein, quelque part, poussent justement au conditionnement, parce que on te laisse pas la possibilité de choisir, tu vois, de choisir. Donc, à partir du moment où il n'y a pas cette possibilité de choix, je vois pas où aller trop la liberté. C'est pour ça que je prends pas de référence religieuse, mais plutôt philosophique. Parce que, bah oui, mais faut lire, hein. Faut tout lire, hein. Moi, oui, mais faut tout lire, parce que tu lis pas ce qui t'arrange seulement. Tu comprends? Ah, voilà, faut tout lire, hein, tout, hein. Tout lire, hein. Parce que moi, pour moi, mes références, vraiment, pourquoi j'ai cet état d'esprit, cette ouverture et cette tolérance de la vie et des choix des gens, mais quelle que soit leur vie, tu vois, vraiment, eh bien, et d'ailleurs, on éduque comme ça autour de moi, c'est parce qu'il y a cette philosophie qui est là et qui, justement, sur laquelle on va puiser pour prendre du recul, parce que pour avancer, il faut prendre du recul. Mais quand t'es dans un dogme, je veux dire, bon, tu peux pas réfléchir par toi-même déjà, parce que tout est mâché, rabâché. On te dit c'est comme ça et pas autrement. C'est comme ça. Ne réfléchis pas. Si tu réfléchis, là qui te jale. Alors tu peux pas.
Manita, pardon.
Tout te pousse à ne pas réfléchir. Alors.
Manita. Oui. Tout à l'heure, quand tu nous as rapporté l'épisode dramatique où est-ce que sur un bord de plage, ils sont avec les haut-parleurs, bien sûr que ces gens sont complètement barélingués et dogmatiques.
Ah, bah, ils suivent ce qu'on leur dit, hein. Ils disent c'est comme ça. Parce
dans
que
le religieux.
On leur dit, c'est celui qui te suit pas, il va l'enfer.
Bah,
ils le disent. Ils le disent. Eux ne font que dire, hein, c'est tout.
Et qu'ils font tout sauf.
Mais t'es choqué. Moi, je suis choqué. Mais en vérité. C'est ce qu'il leur est demandé de faire. Sinon, ils le feraient pas. Pourquoi les gens, ils te parlent de rappel, à ton avis? Et quand ils te parlent de rappel et que ça t'énerve, moi, ça m'énerve et les gens, ils te disent, ah, ben oui, mais c'est marqué, il faut que je te fasse le rappel.
On est d'accord, c'est des gens qui sont dans du dogmatisme, dans du conditionnement et qui ne sont pas créés.
Bah oui, mais ils appliquent, ma chérie, ils appliquent, hein. Ah, ils appliquent, hein.
Dans du fondamentalisme et dans de la radicalité.
Ah, mais ils appliquent.
Ils retirent.
Ben, ils appliquent.
Ils les retirent de leur humanité
et qui
en font tout autre chose que des gens de dans une foi apaisée et sereine.
Ben, une foi apaisée et sereine, c'est tout simplement avoir ta propre vision des religions, ou alors ta propre religion, enfin entre guillemets, ta propre foi à toi, ta propre manière de voir. Voilà, il y a des gens, par exemple, qui sont très spirituels, hein, qui sont très spirituels, mais ils sont pas religieux pour un sou. Parce que les gens confondent religion et spiritualité. Parce que quand tu parles avec des gens, tu parles de spiritualité, ils te sortent des trucs de religion. Tu dis non, attention. La religion et la spiritualité, ce sont deux mondes à part. Ça n'a rien à voir. La religion, tout est calé, tout est cadré. Il y a des règles. C'est comme les lois, tu vois. Un tel verset ou je sais pas, même dans toutes les religions, hein, d'ailleurs. Un tel article, tel ceci, numéroté, tout. Alors que, tu vois, voilà, tu peux pas sortir de là. Alors que, philosophiquement parlant, tu laisses l'observation et l'expérience.
La spiritualité. Qui se déploie dans toute sa beauté, le bouddhisme,
c'est la philosophie, ma chérie.
Qui font que, effectivement, ceux qui sont religieux dans la fermeture, je vais dire, moi, directement, ils ont pris la voie de Satan, d'Iblis, tout ce que tu veux. Et après, moi, je vois.
Oui, mais ils appliquent. Ils appliquent. Ils appliquent, ma chérie. Quand tu lis, moi, on m'a dit, c'est écrit, c'est comme ça, j'applique, j'ai été voir. Oui, ils appliquent, ce que je te dis.
On a le discernement. Et le discernement, tu sais très bien que la voie du juste milieu,
si tu fais appel à ton discernement, tu n'appliques plus.
Dans le discernement de la voie du juste milieu.
Moi, j'ose dire, je n'applique pas.
Pardon?
Moi, j'ose dire, je n'applique pas. J'applique mon, si tu veux, je fais appel à mon discernement et à mon bon sens à moi. Et puis à, je sais pas, à l'expérience des autres, hein, qui te sert aussi. Et puis là, tu cherches, qui cherche trouve. Qui cherche? Tu cherches? Il y a des gens qui
éduquent. C'est la voie royale de ton libre esprit, ton libre arbitre.
Ben voilà. Donc tu sors du dogme.
Et après, en sortant du dogme, comme tu dis, effectivement, tu as un recul, tu es en surplomb et tu es dans ta liberté de pratique spirituelle. Et dans cette spiritualité, eh ben, généralement, moi, quand je vois des gens qui sont bien installés, quel que soit leur...
Ils sont bien dans leur tête, hein. Moi, j'ai une amie qui est plus jeune que moi.
Ils sont bien dans la communauté.
Attends, elle est plus jeune que moi. C'est une amie de longue date. C'est la fille d'une amie, en vérité. Et donc, pour moi, c'est, tu vois, là, je ne veux rien dire parce que je m'entends avec elle comme avec une amie, alors que pour être
pas. Tu n'avais pas fait venir à l'antenne?
Ouais, ouais, ouais. Eh ben, elle est comment prof. Elle est Keina, vraiment. Voilà. Et elle est prof de yoga. Mm-hmm. Elle a fait un cheminement extraordinaire, exceptionnel. Mm-hmm. Vraiment, hein. Except de spiritualité. C'est une vraie spirituelle.
Bien sûr.
Je veux dire, c'est une yogi, quoi. Elle a fait une spiritualité, elle fait des retraites. Des retraites. Mm-hmm. Et là, pendant ses vacances, elle est partie, dans un pays lointain pour faire une retraite. Elle est pas en vacances, sur les plages. Non, non, non. Elle est partie faire une retraite. Elle va dans les monastères. Elle va voir des moines. Elle fait des, mais vraiment de vraies retraites, hein, vraiment. Et elle est initiée et elle continue son, elle dit, ça ne s'arrêtera jamais. Mais c'est une personne d'une beauté intérieure. Mais c'est, avant de partir, elle m'a envoyé un message plein d'amour. Je veux dire, elle est pleine de spiritualité. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est fleuri. C'est embaumé. C'est parfumé. Et voilà une personne spirituelle.
Tu nous l'as fait rencontrer.
Et à Texas, alors que je rencontre d'autres gens qui me parlent de religion et qui sont d'une intolérance, et qui te disent hadik haram, hadik akda, ils sont dans le jugement, le rappel, voilà, visage fermé, et kafar, machin. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu.
Ouais. C'est vrai que ça retourne les boyaux et les tripes, ça fait mal.
C'est ça la spiritualité, elle est là. Kaina fait la spiritualité. Là, elle arrêtera jamais parce que la quête de la spiritualité s'arrête jamais parce qu'elle l'initie aux autres. Et là, cet été, elle est partie encore dans une autre quête pour apporter aux autres.
Mais c'est ça,
Kaina. Elle a guéri des gens. Moi, je l'ai vu guérir des gens. Des gens qui avaient des dépressions, qui étaient dans des états pas possibles. C'est au contact de Keina, ses paroles, ses cours de yoga qu'elle donne, etc., les retraites qu'elle leur fait bénéficier. Mais ces gens-là, ils ont évolué, ils ont avancé, ils ont, waouh, ils ont décollé.
Ouais, mais et après, n'oublie pas que dans la spiritualité, il y a des degrés et des niveaux d'élévation. Elle était très, très, très au
sommet. Mais c'est pas de la religiosité.
Kaina, elle était, tu me l'as présentée, j'ai senti son parfum de beauté spirituelle.
Ah, vous avez vu? Je vais l'inviter, là, à la rentrée.
Après, mais qu'est-ce que je voulais te dire? Moi, quand je te parlais de discernement, quand je rencontre, et malheureusement, j'ai une hypersensibilité, quand je rencontre n'importe qui, je vois directement les gens sur la face obscure comme sur la face lumineuse, et ben les gens qui sont bien ancrés spirituellement, ils sont bien ancrés rationnellement, ancrés dans la réalité terre à terre, et qui sont dans les étoiles à mille et un lieues comme Kaina. Ouais. Et c'est pour ça que ce discernement, c'est une voie royale de lumière qui t'emmène vers des horizons d'horizon en horizon et de lumière en lumière.
Et d'amour, parce que c'est l'amour. En aucun moment, moi, quand j'écoute Kaina, etc., ses initiations, comment elle fait avec les gens, etc., ce qu'elle leur apporte, les témoignages, eh bien, en aucun moment, en fait, elle, dans sa spiritualité de yogi, en aucun moment, il y a de l'interdit, tu sais, comme on l'entend pour un oui, pour un non, l'interdit de faire mal, oui, de faire souffrir autrui. Mais tu vois, alors, c'est que l'amour, donner de l'amour, donner de l'énergie, l'énergie positive, comment transformer, tu vois, ton énergie en positive. Voilà, c'est que ça, si c'est pas magnifique. Ah, mon Dieu. Ah non, laissez-moi, yogi,
Mabekou.
Moi, je peux pas. Impossible.
Aux lumières et qui rentrent pas dans les têtes. Jamais on ne juge, jamais on ne s'attaque. Et il faut toujours élever et mettre en ces gens qui sont dans des têtes spirituelles très élevées.
Mais eux, ils appliquent. C'est ça, ils appliquent. C'est question faite de lecture. Hein. Tout est basé là-dessus.
Bon, après, je vais te laisser avec tes autres.
Oui, on a une pause, ma chérie. Eh bien, écoute, je t'aime fort, ma Safia. Je t'aime. Merci, reviens surtout.
Salut.
Gros bisous. Elle est adorable, Safia. Moi, je l'adore. Vraiment, la vérité, je l'adore. On a le temps de prendre un autre auditeur avant la pause? Pourquoi? Ah, c'est la pause. Ah, d'accord. Alors, on prendra Karim. Karim, je te prends. Promis, Karim. Alors, Karim, tu ne pars pas. Je te prends juste après cette petite pause. Allez, on marque une pause et on revient juste après avec Karim et les autres auditeurs. À tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence. L'émission Sans Tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Sans tabou, confidence sur Beurre FM au 0153 48 3000, et on a Karim qui nous appelle de Paris dans le 18e arrondissement. Bonsoir Karim. Ça va et toi alors? Qu'est-ce que tu fais à Paris dans le 18e? Tu manges quoi? Oui, tu manges choix ou là?
T'as non, 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 rien du tout. Je suis en plein boulot. Je suis en plein travail.
Qu'est-ce que tu fais le soir? Dis-moi, comme travail.
Moi, je suis en transport à livraison bancaire. Voilà.
Tu fais quoi? Tu transportes de l'argent?
Non, c'est bien pour moi.
Il transporte même pas les banques, tu vois, mon agent. Et de temps en temps, il s'arrête avec le camion, avec des millions, des milliards, j'en sais rien.
Des milliards, oui.
Et il appelle pour FM. Hadi, mais je ne sais pas Hadi.
Ce qui m'intéresse, c'est que je viens de mettre la radio il y a environ 15 minutes, là, et je sais que tu ne parles pas de religion.
Non.
Et là, vous parlez de religion, ça m'intéresse.
Ah, on parle de tout, toutes les religions. On les a mis tous dans le panier.
Une fois, je t'avais demandé, tu m'avais dit, on met le relevé de côté, pas de religion.
Non, c'est-à-dire que là, on a parlé de spiritualité, d'éducation d'enfants, pas de religion. Attention, parce que t'as vu, on a parlé de tout, On a parlé des Inuits.
Aussi,
hein. Voilà, c'est pas de religion. Parce que religion, si tu rentres dans le dogme, machin, et tout ça, non. Non, le truc, c'est que, les enfants, est-ce qu'on leur donne la liberté de choisir? Voilà.
Alors, moi, je me réfère à la religion.
Vas-y.
Parce que la religion islamique, déjà, là-bas, c'est la dernière des religions, c'est ce qu'on doit suivre. C'est marqué noir sur blanc sur le Coran. Moi, je n'y suis pas ni d'imam, mais attends, je vais juste finir. Moi, je ne suis pas ni d'imam, ni de bouquin, ni lui l'a dit, lui l'a pas dit, non, je vais pas voir, ça ne m'intéresse pas. Déjà, le Coran, il est véridique, ça, c'est la première des choses. Il y a de Dieu, ça, il n'y a pas de.
Non, mais parle pour toi.
Attends.
Non, mais apprends à parler, Mbabakoum.
Laisse-moi finir.
Attends, deux minutes. Parle pour toi. Ne dis pas, c'est ça, c'est terminé, et pas autrement. Tu parles pour toi. C'est ta vérité à toi, mais c'est pas la vérité de ton voisin, par exemple. Tu sais pas, moi, ce que je pense. Je sais pas, tes voisins, tu vis avec des gens qui ont des mentalités différentes, des visions de la vie différentes. Et puis, t'as des gens qui croient, au judaïsme, par exemple, la Torah, l'autre y croit en la Bible, les bouddhistes en autre chose. Donc tu ne dis pas, oui, le Coran, c'est une réalité. Non, on peut pas, il y a personne qui peut. Non, toi, c'est ta réalité, mais c'est pas une réalité de tout le monde. Donc il faut dire, pour moi, je pense que, mais ne dis pas, c'est une réalité, personne n'a le droit de redire. Si, les gens ont le droit de redire. Ils ont le droit de pas reconnaître parce que ils se reconnaissent pas. Et ça, voilà, apprenez, c'est très important.
J'ai appris, parce que déjà, je sais pas, mais c'est
une réalité pour toi et pour ceux qui croient comme toi. Mais pas tout le monde.
Voilà, le Coran, c'est clair, net et précis.
Pour toi.
C'est la continuité. Attends, je peux expliquer en deux mots. Le Coran, l'islam, c'est la continuité de la religion juive, de la religion chrétienne. Nous, dans l'Église, ça commence du paradis jusqu'à la fin. Ça commence tout du paradis avec Adam et Ève jusqu'à la fin. Voilà les juifs, c'est ce qu'ils ont fait, voilà les chrétiens, ce qu'ils ont fait, voilà ce qu'il y a. Les Bibles ont été falsifiées, Jésus n'est pas fils de Dieu, bref, voilà, il y a tout ça.
Ça, tu n'as pas le droit de dire la Bible a été falsifiée. Non, on n'a pas le droit de dire ça. Parce que c'est porter atteinte, tu vois, à la foi d'autres personnes qui croient en la Bible. Pour eux, la Bible n'a pas été falsifiée. Alors, si demain, on vous dit que le Coran, il est faux, et que ceci et que cela, ça vous ferait pas plaisir. Donc, il faut aussi respecter les écritures des autres. Voilà. D'accord ? Parce que, de toute façon, chacun veut avoir raison. Mais il faut respecter les uns et les autres. Voilà ce que je veux dire, Karim. Tu peux pas dire falsifié. La Bible, celui qui dit la Bible est falsifiée, c'est parce qu'il a envie, si tu veux... qu'on croit qu'en lui, voilà. Non, l'autre il est pas bon, croyez en moi. C'est pas bien déjà de critiquer, je trouve.
Je critique pas, le problème que vous avez, c'est que vous n'allez pas dans l'histoire. Là, c'est
Toi, tu l'as lu noir sur blanc. Mais les gens, ils ont le droit de pas avoir lu la même chose que toi et de pas croire. Tu sais, ta façon de lire. Ta façon, si tu veux, ton interprétation de la lecture, peu importe quelle lecture, peu importe. Moi, je ne prends pas une lecture en exemple. Peu importe laquelle. Ta manière d'interpréter n'est pas la même, dis-toi une chose, que d'autres personnes. Voilà, vous pouvez lire la même chose, mais lire la même chose, mais pas comprendre la même chose. voilà, comprendre différemment. Voilà. Il y en a qui lisent d'une manière et d'autres ils lisent autrement. Voilà, Léa.
C'est tout. Quand j'étais petit, j'étais dans en province, dans le 60, et on avait été avec un groupe d'enfants, j'avais crois 10, 12, 13 ans, 13 ans comme ça, et on m'avait invité dans une église. D'accord ? Et le curé, enfin le père, il m'avait reçu, et il était étonné qu'un maghrébin puisse rentrer dans une église. Moi, ça ne me dérangeait pas du tout.
Ben non, il n'y en a pas.
Alors, laisse-moi finir. Mmh. Et on a discuté ensemble, et il me dit, vous êtes musulman, croyant ? J'ai dit oui. Et je lui ai posé la question, il m'a dit, mais pourquoi vous n'avez pas choisi d'être chrétien ? J'ai dit, parce que chrétien, voilà ce qu'il y a, ce qu'il y a, ce qu'il y a, ce qu'il y a.
Il m'a dit, voilà ce qu'il y a, non, il fallait lui dire la vérité. Je suis né dans une famille musulmane, j'ai été éduqué par cette famille musulmane, donc je suis musulman, comme un juif qui naît dans une famille juive, il est juif. Et c'est pas, tu lui dis, toi tu vas à l'envers, tu lui dis, il te dit... Pourquoi vous avez gardé votre religion ? C'est une question. Parce qu'il y en a plein qui posent aussi des questions aux chrétiens en leur disant pourquoi tu te convertis pas. Donc c'est une question. Alors toi, tu lui réponds, non, parce que je vous expliquais, hein, votre écrit, il est faux. Non, mais attends. Non, dis-lui la vérité. Sortez les choses telles qu'elles sont. Tu es né dans une famille musulmane, donc tu es musulman. Tu serais né dans une famille chrétienne, je te jure qu'aujourd'hui, tu me dirais la même chose dans l'autre sens. Tu vas pas me dire que si t'étais né dans une famille chrétienne, tu tiendrais ce discours quand même.
Musulmans. Il y a des Américains musulmans. Il y a des musulmans. Oui, tous les pays des musulmans, il y en a partout. Partout, tous les pays.
Et alors?
Et ben voilà. C'est pas parce que je suis dans un pays maghrébin, je suis de parents maghrébins que je suis musulman. C'est tout. Moi, j'ai déjà
Tu es né dans une famille musulmane et tu es musulman. Combien de Maghrébins, dis-moi le nombre de Maghrébins qui ne sont pas musulmans. Des Maghrébins, hein, qui ne sont pas musulmans. Ils sont nés au Maroc, en Tunisie, en Algérie, ils sont musulmans. Si ces personnes étaient nées chez les Esquimaux, ils seraient Esquimaux. C'est la déduction, c'est logique.
Je connais
ta famille comme je connais ma famille. On est musulmans, qu'on pratique ou pas, ou la Zama, ou la Betrbania, ou la Hadé, ou la Padud. On est musulmans, Kdamnes. Alors, faut arrêter. Hein.
Pas vrai. Et pas vrai. En tout cas, tu m'as dit des fois, oui, il n'y a pas le choix. Si je veux pas, je veux avoir le choix.
Ah, c'est la suite. C'est le conditionnement, hein. On est conditionné depuis.
Quand toi, tu aimes, tu dis quand t'as le choix. Mais là, tu vois que le monde, là où on vit, là, avec tout le choix qu'on a, tu crois qu'il est beau, le monde qu'on a, là, en ce moment, là?
Quel
monde?
Attends,
tu crois qu'il est beau? Là, il y a 15 jours, trois mois, il y a la variole du singe, là. Laissez la liberté, parce que vous
voulez. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas compris.
La variole du singe, elle vient d'où?
Non mais là tu sautes du coq à l'âne, là je peux pas te suivre, la vérité.
Anna
Mokhe, faut me le laisser en place, parce que dans ta blonde, la variole du singe, juste avant il y avait le Covid. Alors jusqu'où on va aller comme ça? Bien sûr qu'il y a la variole du singe, il y a le Covid, il y a aussi le poulet, la vache folle, oui, il y a des maladies, oui, il y a des maladies, alors il est où le problème? Je comprends pas.
Et la liberté de se marier, de rester en concubinage, sans faire avec quelqu'un sans écrit. J'ai vu un reportage, je sais plus, c'est en Suède, en Norvège. Ils commencent à être ensemble, à être en couple, 13, 14, 15 ans, très tôt, et sans mariage, sans rien du tout. Et génération en génération, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'ils font des tests co-continuative, qu'on appelle ça, là, pour voir si leur sang est compatible, s'ils n'ont pas les gènes d'un cousin ou d'un frère ou d'un demi-frère. Parce qu'ils peuvent se retrouver entre frères et demi-frères en train de forniquer. Alors, tu trouves ça normal, c'est le choix, il n'y a pas de problème, d'accord. Et moi, je trouve...
C'est incroyable.
Moi, je préfère.
Tu sais ce que tu es en train de dire? Tu es en train de stigmatiser tout un peuple, vraiment, là. Hein. J'ai vu un reportage suédois. C'est que là, t'es en train de stigmatiser le peuple suédois, comme quoi c'est un peuple qui copule entre frères et sœurs. C'est très grave ce que tu dis. C'est très très grave. Vous vous rendez même pas compte de ce que vous dites. Vous vous rendez pas compte. C'est incroyable. L'aql, C'est ça qui manque. L'aqal. Tu es en train de stigmatiser toute une nation, là.
Je te dis, voilà, la liberté, la fin.
De quelle liberté? Tu sais que dans tes pays, hein, dans partout, aux quatre coins de la planète, par exemple, il y a l'inceste. Tu sais qu'il y a des pères qui touchent à leurs enfants. Ah oui, ça existe. Il y a des pères qui ont mis leur fille enceinte. Ça existe. Ça existe aussi chez nous. Ça existe partout. Ça existe partout. On peut pas le nier. Voilà. Mais ça, c'est des déviances. Tu vois? C'est des déviances.
Par exemple, de se mettre avec quelqu'un. Moi, je préfère. Je donne un exemple. Moi, je préfère, je suis déjà marié, mais bon, on va dire, je préfère me marier avec un papier, acte avec monsieur, un tel, marié avec un tel.
Tu fais ce que tu veux.
Attends. Comme ça, si demain, attends, je peux finir. Demain, si y a mon enfant, on sait l'enfant, il est de qui, il est de toi, il vient d'où, on sait c'est qui. C'est pas l'autre, il vient comme ça, il vient coucher avec elle, de même qu'il se barre, et puis après, elle est enceinte, l'enfant, c'est pas, il vient avec.
Ah, parce que le papier de monsieur le maire, est garanti que l'enfant, il est de toi. Et pourquoi le maire, c'est Herbé, tu l'as pris pour qui? Le maire, c'est un homme comme toi et moi. Il te donne un papier, mais à la belle ouche gabek. Il te donne le papier, il te le signe, Adam Akan, oui, allez, marie-toi et rahl dark. Mais un enfant, il est jamais, tu sais qu'un enfant, il est jamais garanti qu'il est toi. Un jour, il y avait un homme, après, je vous raconte l'histoire. Personne, c'est comme ça. Personne n'est sûr à 100% d'être l'enfant de son père. Denis Hadé, elle est pleine de surprises.
En tout cas, voilà, en gros, voilà, moi, je préfère, parce que demain, par exemple, ils se mettent en couple. Ils se mettent en couple. Il y a un couple, là, ils font pas de ni papier, ni rien du tout. Lendemain, le monsieur,
arrêtez
décide de partir. Il part sans rien. Il part, il dit que c'est un mec comme lui, casse-toi, bonjour. Et la femme est toute seule. Lui, persique.
Tu sais qu'avant, les papiers n'existaient pas? Nous, par exemple, dans nos pays, l'état civil n'existait pas. L'état civil, elle est venue avec la colonisation. Elle n'existait pas. Kanoukolo, flen, ou un tel, le fils de, voilà. Mais il n'y avait pas d'état civil. L'état civil, avec la colonisation. Et alors, les gens, ils se mariaient. Qu'dam, and, wismo. Qu'dam talab, and hadak wismo, le talab, l'imam. Voilà, ils se mariaient comme ça, mais les mairies n'existaient pas. Voilà, Adéhia. Et au Maroc, je crois que c'est un Doul, je crois, on m'a dit, mes amis marocains. Donc Doul, les autres, avec Osmo Limab, ou la Talab, ou la Hadja, les gens, ils n'avaient pas besoin de... Ils n'allaient pas à la mairie, les papiers... Toi, tu mélanges tout, tu mélanges la religion, les papiers, les papiers, c'est moderne, tu sais que c'est nouveau. Et les papiers ne te garantissent pas que ton enfant, c'est ton enfant, moi je te le dis, hein. Tu m'entends?
Là, c'est autre chose.
Ah, ben,
okay. Il n'y a qu'un droit, l'imam. Il n'y a qu'un droit. L'imam, il a le droit de faire la khutba, c'est tout. C'est pas, il n'a rien pas le droit de faire la khutba. C'est un mariage, lui. Il a un droit, lui.
C'est le mariage religieux, Yac.
Et qui lui donne le droit de. Où t'as vu ça dans quel livre? J'ai vu ça nulle part, moi. Il n'a aucun droit, l'imam, ça, c'est du blablabla, ça. Et bien, le mec, il prend un billet, il casse, c'est tout.
Ah ben écoute,
demain je vais y aller vivant, tu sais quoi? Ben oui, ben c'est tout.
Ça s'appelle Fatiha, il qara le Fatiha. On dit il halal le mariage, le halal. Le Fatiha, moi j'ai toujours vu hein, ça par contre, ça je l'ai vu hein. Tu vois, je dis pratique religion et tout ça, mais voilà, les grandes lignes, il faut les garder. Moi j'ai toujours vu autour de moi Nes, Kemakolo, le jour de leur mariage, ils disent imam il qara le Fatiha pour que le mariage il soit béni. C'est comme ça dans toutes les religions, chez les chrétiens. C'est chez à l'église, chez le curé, chez les juifs avec un rabbin, et chez nous les musulmans avec un imam. Pourquoi toi dans ta famille ramène pas d'imam pour le mariage, pour
Je t'ai dit que en France le halal est interdit par la loi française. Non, donc reste ta loi française, c'est tout.
Tu sais pourquoi? C'est par rapport au mariage blanc. Alors donc en France c'est tout. Adam Aken. Mais sinon rien n'empêche de te marier une fois que t'as ici parce que c'est la loi. Tu vas à la mairie. Après, tu vas faire le mariage halal. Mais dans tes pays d'origine, voilà. Le halal...
Au Maroc, il y a halal. Ça n'existe pas, le halal. Excuse-moi, désolé. Hein. Tu vas entrer dans le Maroc ou va dans la rue. Tu dis, je vais le halal, ça n'existe pas. Il n'y a pas le droit, c'est interdit. C'est mieux, ouais. C'est interdit au Maroc.
T'es marocain?
Ouais, je suis marocain. Oui, je suis marocain.
Alors,
c'est interdit.
Les autres marocains, vous êtes à l'écoute, venez nous dire la vérité parce qu'il est en train
de... Alors, je te dis la vérité. Alors, maintenant, appelle le consulat du Maroc. Attends, écoute-moi.
J'ai des amis marocains, je vais leur demander, t'inquiète pas. J'en ai. Karim, je suis obligé de te laisser, on a une pause là tout de suite. Karim, passe-moi.
Ah oui.
Karim, je suis obligé de te laisser. D'accord. Reste à l'écoute. Allez, bonne soirée, Karim. Alors, donc, moi, j'ai toujours vu, j'ai assisté à des mariages marocains. Et où est-ce que c'est le halal? Je comprends plus rien, que si vous voulez que je vous dise. Bon, Marocain, vous êtes là, venez nous dire, qu'est-ce que c'est le mariage? Il se fait pas halal. Moi, j'ai pas vu. J'ai jamais entendu. Bon, on prend un appel là tout de suite, après on est à la pause. Jocelyne, elle est toujours là?
Oui, je suis là.
Bon, je te prends juste après cette petite pause. Allez, on marque une petite pause et on revient. Alors, ce soir, on a tout mélangé avec Kerim. La religion, les traditions, les mentalités. Ma tête, elle va tourner, hein. Bon. Moi, je vous attends et venez nous dire ce que vous pensez du discours de Kerim. À tout de suite.
Confidence revient dans un instant.
Cheb Hasni, il nous reste sa voix. Shira Lin Briha, voilà, des chansons d'amour comme on aime. C'est juste magnifique, c'est la vie, chanter l'amour. Parce qu'ils l'ont tué parce qu'ils chantaient l'amour. Vous voyez, il y en a qui n'aiment pas. Hein. Ils n'aiment pas la musique, ils n'aiment pas la vie, ils n'aiment pas l'amour. Ah si, ils aiment bien, mais à leur manière. Mais voilà, tout ce qui représente la vie, la joie de vivre, vraiment les petits moments de bonheur qui nous sont prêtés par la vie, parce qu'ils sont prêtés, ils sont pas donnés puisque c'est repris, voyez. Voilà, il y a tellement de moments difficiles dans cette vie. Eh bien, quand on a quelques petites lueurs d'espoir comme ça de la vie, un peu de musique, un peu de, je sais pas, des petits moments de partage avec des amis et quelques heures, ne serait-ce que quelques heures pour oublier notre petite condition d'humain où il y a de la douleur, des épreuves, etc., par lesquelles on passe. Eh bien, prenons ces moments. Puis moi, je vais vous donner mon avis sur une chose. Il y a des moments où on n'est pas très bien. Voilà, on passe des deuils, des maladies, des choses, des épreuves, tout le monde, hein, de toute façon. Eh bien, accrochez-vous. Accrochez-vous. Accrochez-vous pas au passé pour le passé. Non, non. Il faut avancer. Mais allez puiser dans les bons souvenirs. Je peux vous assurer que ça fait du bien. Dans les moments de joie, de bonheur partagés en famille. Vous voyez, quand vous étiez jeune, en famille, avec des personnes qui ne sont plus, malheureusement, parce qu'on avance dans l'âge et on, voilà, au fur et à mesure, les uns poussent les autres. Eh, c'est comme ça. C'est la règle de la vie. Et bien, allez puiser dans ces moments. Vraiment. Parce que c'est ça le stock, si vous voulez, de bien-être et vraiment de réconfort et le remède pour apaiser vos douleurs du moment, dans le présent. Vous voyez, allez dans ce passé, puiser au lieu de ruminer, tourner en rond et pas voir de solution et vous faire du mal. Parce que se faire du mal, eh bien, c'est réveiller des maladies parce qu'elles sont en nous. Non, allez puiser dans ces moments. Je peux vous assurer, revisiter ce passé avec, je sais pas, les grands-mères, les qu'on aime tant. Moi, je reviens toujours aux grands-mères, j'adore les grands-mères. Eh bien, voilà, ces moments de joie, de toute la famille était là, où ça partait un peu de partout, les cousins, les cousines. Moi, je vais dans ce passé parce que je l'adore, ce passé. Et dans les moments difficiles, eh bien, je plonge dans ces moments de bonheur et ça fait du bien. Vous voyez, vous prenez vraiment votre dose. Eh oui. On a Jocelyne qui nous appelle de Paris. Bonsoir, Jocelyne.
Oui, bonsoir. Donc, je suis chrétienne, donc je voudrais répondre au monsieur qui vient de partir là, qui s'appelle Karim.
Ah oui, oui.
Donc je sais que vous lui avez déjà répondu, mais je voudrais lui dire.
Oui.
Quand on affirme quelque chose, puisqu'il dit que le Coran, c'est la continuité de la Bible et de la Torah. Quand on affirme quelque chose, il faut falloir le démontrer. Premièrement. Et deuxièmement, puisqu'il dit que la Bible a été falsifiée, il faut qu'il apporte ses preuves. Troisièmement, en tant que chrétien, moi, si on me critique, je ne vais pas mettre la ville en feu. Mais si nous critiquons certains musulmans dans certains pays, Mahomet, la ville est en feu. Parce qu'il n'y a pas de tolérance chez certains. Moi, en tant que chrétien, je respecte l'autre. Je respecte l'autre. Oui. Si moi, je conçois que je suis dans la vérité et que l'autre n'est pas dans la vérité, je n'irai pas le cracher à son visage. Je prierai pour lui.
Ça s'appelle le respect, déjà.
Voilà.
Et l'amour de son prochain.
Voilà. Je prierai pour lui. Pour lui ou pour elle.
Et la tolérance, surtout.
Voilà. Et troisièmement, la liberté consiste à respecter l'autre.
Exactement.
Moi, quand je jeûne, je ne vais pas le mettre à la surface des gens. À mon travail, je le fais chez moi, Personne n'a besoin de savoir ce que moi je demande à Dieu.
Oui.
Ça reste dans l'intimité. C'est ça la foi.
Oui, oui.
Je ne vais pas l'exposer à mon travail. Si je suis en jeûne, je ne vais pas pénaliser mes collègues par rapport à ma foi.
Oui, oui, non, mais j'entends.
Et ce qui se passe avec certains musulmans, quand c'est par exemple le ramadan, moi je subis.
C'est-à-dire?
Eh ben, ils sont obligés d'arrêter de travailler pour aller manger, rompre le jeûne. Moi, je les respecte.
Mmh.
Mais si moi, je fais quelque chose qui va pas avec eux, ça, je suis critiquée.
Oui. J'entends quand tout à l'heure, vous disiez que on peut se tutoyer, Jocelyne, hein, parce que c'est la règle de l'émission. On se tutoie. On a une famille. Donc tout à l'heure tu disais, Jocelyne, que tu respectes la foi des autres, la pratique des autres, et que ouvertement tu ne te permettrais pas de porter un jugement, et que tu as été peut-être choquée, et tu as raison, de la part de Karine, que j'ai repris, tu as entendu, eh bien
oui.
Je l'ai repris même vertement, puisque je l'ai mis en attente, hein, vraiment, je l'ai coupé. Pour qu'il entende bien qu'il a dépassé beaucoup de limites et que là c'était du non, il était dans le non-respect, voilà. Et que toi, tu as dit aussi une chose que certains, j'aime bien parce que tu as dit certains, t'as pas dit les, tu as dit certains. Et ça, voilà. Tu as dit certains musulmans, eh bien, pas tous, certains. Si on critique leur prophète, puisque c'est pas ta religion, tu dis leur prophète ou leur religion, c'est à feu et à sang. Malheureusement, je ne peux pas te dire le contraire, puisque c'est une réalité que certains s'octroient cette liberté, eh bien, de le faire entendre. Voilà, de condamner, de stigmatiser, de condamner parfois même à mort, hein, parce que il y a eu un écrivain.
Samuel Paty.
Samuel Paty, oui, qui a un professeur, oui, qui a
Salman Rushdie,
qui a juste lui voulu parler de la liberté de penser, de la liberté justement, la laïcité, hein, c'est voilà, il voulait mettre ça en avant et pour évoquer ce qui s'était passé en France, malheureusement ces années où il y a eu ces malheureux et ces dramatiques et tragiques attentats, lui justement, il faisait un travail pédagogique et le pauvre, il y a laissé la vie. Voilà.
Voilà. Salman Rushdie.
Salman Rushdie, qui avait écrit avec les versets sataniques.
Parce qu'il a réfléchi. Il a réfléchi. C'est sa foi à lui. S'il pense que c'est pas ça, on n'a pas le droit de mettre une fatwa sur lui. Moi, voilà quoi. Donc,
il faut discuter. Il faut discuter, voilà. Et dire, se mettre autour d'une table et dire voilà, je demande un débat contradictoire, hein, débat pour dire non, je ne suis pas d'accord. Et à ce moment-là, voilà, ou là où je ne suis pas d'accord, les points, etc. C'est-à-dire que nous sommes des êtres normalement évolués. Nous sommes des animaux évolués, parce qu'on fait exactement la même chose que les animaux, donc nous sommes des animaux, mais évolués. C'est pour ça qu'on dit que l'être humain, il est doté de facultés de penser que les animaux n'ont pas. Donc, si on pense, si on réfléchit, et si nous avons, cette chance d'avoir le langage, c'est pour échanger. Donc
réfléchir.
Et puis parler, le langage c'est pour échanger. Là on est en train d'échanger, donc on échange, on parle tranquillement dans l'apaisement, mais pas condamner l'autre parce que l'autre a dit quelque chose avec laquelle tu n'es pas d'accord. Voilà. Tous les jours on n'est pas d'accord avec les gens, mais voilà.
Comme je disais, je discutais avec un membre de ma famille, je lui dis bon, Puisqu'il y a des membres de ma famille qui se sont convertis à la religion musulmane.
Oui, oui, bien sûr.
Alors, je lui dis donc, elle.
Oui.
Certains disent que nous sommes des mécréants, des koufars.
Ça, tu vois, c'est pas. Ouais, ça...
Donc, nous sommes des koufars, nous sommes des mécréants.
Ouais.
Donc, elle était un mécréant auparavant.
Mmh.
Si, dans sa réflexion, d'autres l'avaient tué, puisqu'elle était auparavant un koufar, avant de devenir musulman. Et si on ne donne pas la chance aux autres koufars, ils peuvent pas venir des fidèles. Vous comprenez ce que je veux dire?
J'entends, oui, je suis.
Donc, si on tue ceux qui sont les infidèles, vous ne leur donnez pas la chance de devenir des fidèles, puisque vous les tuez.
Et le problème, c'est qu'il y a une grosse déviance depuis quelques décennies, Jocelyne, puisque le Coran, pour l'avoir lu, comme j'ai lu la Bible, comme j'ai lu l'Ancien Testament, comme j'ai lu aussi la Torah, et j'essaye un petit peu, bien sûr je lis pas dans son entier, mais je puise, pour avoir des connaissances. Eh bien, moi, tous les écrits, j'ai du respect pour eux, parce que c'est, il y a des milliards de gens qui sont dans ces foies. Donc, on ne peut que respecter, comme tu le disais, les foies des autres. Alors, pour le Coran, eh bien, je voudrais rectifier quelque chose, c'est que ces personnes vont à l'encontre. C'est des sectes. C'est pour ça que nous, chez les musulmans, on parle de ces gens-là comme des sectes. Ceux qui sont vraiment éclairés, hein. Ils te disent, c'est des sectes. Parce que quand tu dis, tout à l'heure, que ces personnes disent des chrétiens, que c'est des kofars et tout. Kofar, qu'est-ce que c'est? Kofar, c'est mécréant. C'est un vieux terme qui est très péjoratif, qu'on ne devrait même plus employer. C'est terrible. Alors, donc, mécréant, qui est utilisé dans toutes les religions, pour chez les chrétiens, les juifs, c'est pareil. Les mécréants, pour eux, c'est ceux qui ne croient pas. Voilà, qui ne croient pas, qui sont athées. Donc, moi, je préfère le terme athée. Voilà, personne qui ne croit pas, qui est athée, ça se respecte, mais on ne doit pas la taxer ou la traiter de mécréante. Par contre, alors, une chose, c'est que chez les musulmans, au grand jamais, il n'est écrit quelque part dans le Coran qu'un chrétien ou un juif est un mécréant. Pour te dire qu'ils sont dans l'inculture, dans l'ignorance totale, dans le Coran, il est écrit que les juifs et les chrétiens, on les appelle même, par respect, hein, les gens du livre. C'est ce qui est écrit dans le Coran. Les gens du livre. C'est-à-dire que c'est consistant. Voilà. Rapprochez-vous d'eux. Parce que eux ont la connaissance, ils ont le livre. Donc il n'y a pas écrit qu'ils sont dans l'erreur. Au grand jamais qu'on dit, oui, ça a été falsifié, mais ça ne va pas. Puisque dans le Coran, il n'est pas écrit que c'est falsifié. On dit les gens du livre, le Coran reconnaît la Bible, reconnaît la Torah, reconnaît Jésus. Et Jésus est mentionné. Alors ça, je vais t'étonner. Tu m'entends, Jocelyne?
Oui, je sais.
Je vais t'étonner.
Je vais t'étonner.
Tu sais que dans le Coran, Jésus est mentionné presque à toutes les pages. Jésus est très respecté. On l'appelle Issa parce que c'est traduit en arabe.
Oui, je sais voilà. Qu'on l'appelle.
Mais Jésus. Il est respecté. Son nom est répété à plusieurs reprises. Beaucoup plus que le prophète. Le prophète lui-même, je pense trois ou quatre fois le prophète. Alors que Jésus, il est partout dans le Coran. Comment tu expliques que ces gens-là soient si ignorants? La religion musulmane, l'islam, n'a jamais critiqué les autres religions. C'est vrai que c'est la continuité, parce que les gens peut-être n'avaient pas tous compris. Donc, c'est une forme de continuité. D'ailleurs, ce qu'on puise dans la Bible, ou chez la Bible aussi juive, eh bien c'est vraiment à l'exactitude ce qu'il y a dans le Coran, avec bien sûr des adaptations, etc. Mais voilà, il y a aucune contradiction. Le Coran ne critique jamais les autres religions, jamais. Ces personnes qui racontent n'importe quoi, ils font partie de sectes, ils ne le savent pas à leur insu. Voilà, Jocelyne.
Allez, merci.
Je te souhaite une bonne soirée, Jocelyne, je t'embrasse.
Je comprends pas tout. Vous parlez et arabe, parce que je parle pas l'arabe.
Et donc, c'est pour ça que je traduis.
Quelques mots, que choukran, oui. Et voilà, salam.
Alors, et tu remarqueras une chose, c'est qu'on parle en français. Et des fois, on dit un mot en arabe que je traduis aussitôt.
Allez, merci. Au revoir.
Bisous, bonne soirée, Jocelyne. Au revoir. Voilà, chers amis, terminé pour ce soir. Moi, je vous invite à revenir demain, si vous voulez, on peut continuer cette discussion, parce que il y a beaucoup à dire, beaucoup, vous voyez, hein, les malinterprétations, comment on peut blesser les gens. Eh oui, elle a raison, Jocelyne, on peut blesser les gens, parce que Karim a été maladroit, c'est pour ça que je l'ai coupé, pour le reprendre, pour bien lui expliquer qu'il comprenne qu'il est dans l'erreur. On n'a pas le droit de blesser les gens et de dire tout et n'importe quoi, falsifier, etc. Non, elle a raison. Moi, je suis entièrement d'accord avec elle. Voilà, donc aller puiser par-ci, par-là, les dires des, je ne sais pas, sur Internet, qui racontent, les chires machins, etc., qui vous racontent n'importe quoi, faire attention. Parce que dans le Coran, il n'a jamais été, jamais, en aucun moment, émis une critique envers les chrétiens, ou les juifs. Bien au contraire. On l'a lu le Coran, bien au contraire, il est dit, c'est les gens du livre, et les gens du livre sont respectés dans le Coran. Voilà, donc pour les personnes qui ne sauraient pas, c'est ça. Hein. Voilà, terminé pour ce soir, on peut revenir demain, si vous le voulez, avec ce sujet. Yanis, on se dit à demain. Bon, allez, bonne nuit Yanis. Désolée pour les personnes qui sont en écoute, en attente, revenez demain. Allez, belle et douce nuit à vous, chers amis. On va vous laisser avec Rayantologie. Voilà, voilà. Un moment de bonheur, Rayantologie, c'est juste magnifique. Et moi, je vous donne rendez-vous demain, de 11h à midi, pour vos petites annonces demain. OK ? Allez, à demain, je vous aime. Bye !
Retrouvez Confidence tous les jours de 21h à 23h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.